When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Comment passe-t-on de la sédentarité de son canapé à ses tout premiers dossards? C'est ce dont nous avons discuté avec Diane. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions, championnes du monde de notre monde. Et aujourd'hui, dans cet épisode, vous allez entendre régulièrement parler du Hamster Zoning Club, qui est la communauté bienveillante autour du podcast. Ne la cherchez pas sur Facebook, elle est ailleurs, bien à l'abri, et le lien est spécialement pour vous dans les notes de l'épisode. Si vous êtes fidèle de ce podcast, vous savez que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de gens qui ont couru de longues distances et ça peut paraître très impressionnant, surtout quand on débute. Hein, c'est même un petit peu intimidant. Aujourd'hui, nous partons en Norvège pour discuter avec Diane, qui est membre du Hamster Zoning Club et qui a repris le sport et débuté la course il y a à peine 2 ans. Avec Diane, nous avons discuté de ses débuts en course à pied, ses erreurs, ses blessures pour passer de la sédentarité à son tout premier dossard. 5 km, son Everest à elle. Un Everest qu'elle a finalement eu du mal à digérer, surtout avec le long hiver norvégien, et qui l'a conduit à une blessure. Depuis, Diane a repris l'entraînement et participé à 2 nouvelles courses de 5 km, et cette fois, elle a même embarqué sa fille de 11 ans. Maintenant, elle vise des distances un peu plus longues pour arriver à son défi, qui se déroulera l'année de ses 42 ans. Je vous laisse donc deviner le défi. Nous avons aussi profité de cet épisode pour faire un peu de tourisme, pour parler de la Norvège, de la nature, du lien particulier des Norvégiens avec la nature, ainsi que des marques qui ont une approche plus responsable sur les matières utilisées. Et vous allez voir que Diane court avec des températures qui sont plus fraîches que les nôtres, y compris en cette période, et qu'elle a quelques marques et une matière tout particulière aussi à nous recommander. Allez, c'est parti. Bonjour Diane.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, jour férié, donc ça va.
Donc jour férié égale jour couru.
C'est ça, petite sortie prévue pour la fin de journée.
Pour la fin de journée, tu te la réserves toi pour la fin de la journée?
Ouais, j'aime bien courir en fin de journée ou voir le soir quand il y a... quand tu croises le moins de monde possible. Ça, j'aime bien.
Oui, mais moi tu sais, c'est le matin, je croise personne.
Moi j'ai remarqué que toi t'es plus du matin en fait. Moi, c'est plus du soir.
Alors, ce matin, pour tout le dire, alors jeudi, parce qu'on enregistre le 26, c'est le jeudi de l'ascension, je suis parti à 6h05, tapante, de la maison. C'était juste le temps que j'enregistre, que je fasse les montages de sport et nutrition de l'épisode qui sort demain. Et j'ai regardé l'heure, j'ai dit, ah, bon, c'est bon, je suis pour le lever de soleil, je peux aller voir mon lever de soleil. Et j'ai fait tout mon parcours, et quand je suis arrivé à l'endroit où il y avait le lever de soleil, il y avait des gros nuages à la place. Mais... c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Moi, j'étais prêt au moment où il le fallait et je peux te dire que je n'ai croisé personne, mais vraiment personne. À part, si, je le dis, j'ai croisé des campeurs, les premiers campeurs de l'année, des petits jeunes qui avaient dû faire une fiesta, qui avaient planté les tentes, etc. Et il faisait que 8 degrés quand même, hein. Il faisait pas très chaud. Je sais pas comment il fait en Norvège aujourd'hui, en température.
Là, aujourd'hui, il fait 11 degrés, tu vois, donc on n'est pas loin de tes températures matinales.
Ah, punaise.
Mais il fait frais.
Il fait frais, mais bon, écoute, hein, après vous allez avoir des journées bien plus longues, etc. Alors je dis pas plus chaudes, mais vous rapprochez des journées très très longues là.
Ouais, là il fait quasiment plus nuit le soir. Le matin tu te réveilles, tu te fais réveiller à 5h du mat. Donc on peut courir très 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 tôt jusqu'à très tard. C'est comme ça en ce moment, ouais.
Alors, on va faire les présentations d'abord, parce que j'ai dit tu es en Norvège. Donc on continue notre tour du monde. Je sais pas comment, dans quel ordre on va diffuser, mais il y a eu de la Belgique, des États-Unis, du Canada, et aujourd'hui on part en Norvège. C'est la grande première. On a fait du Luxembourg, bien entendu. J'ai oublié Hermano et compagnie, mais c'est tellement un habitué. Norvège. Où exactement es-tu?
Oui, Bertrand, déjà, tu as des fans dans le monde entier, ça c'est clair. Moi, je suis partie des fans en Norvège. J'habite à Bergen sur la côte ouest. Donc, je suis expatriée, enfin immigrée même depuis 18 ans. Et on est au 60e degré de latitude nord, c'est au même niveau que le nord du Canada et le Groenland. Mais on est sur comment dire, une zone où le Gulf Stream réchauffe toute la côte et elle se fait qu'on n'a pas à courir sur des icebergs ou sur la glace. Les températures sont très douces toute l'année. Donc, c'est aussi la porte d'entrée du royaume des fjords. Les plus beaux fjords de Norvège sont autour de Bergen et c'est là que j'ai choisi de m'installer.
Et il faut le dire parce que des fois tu publies des photos très régulièrement, hein, on le dira après, on donnera ton compte Instagram ou te suivre, etc. Mais il y a des. C'est chouette quand même.
Oui, c'est beau.
Hein? Franchement.
Oui, c'est bon. On a la mer d'un côté, la montagne de l'autre. On a les deux à proximité. On a des super sentiers à flanc de montagne, en bord de mer. C'est très chouette de courir, de pratiquer la course là-bas.
Mais ça n'a pas l'air bien plat.
Ouais, c'est plat. Tu as des sentiers à flanc de montagne qui sont aménagés, qui sont plutôt plats. Après, tu peux avoir du dénivelé quand tu veux. Ça, c'est pas le souci. Après, en bord de mer aussi, c'est. Au fond des vallées, c'est plat. Donc ça permet de varier en fait les pratiques.
Donc on peut dire qu'on peut tout quasiment tout faire, hein, c'est-à-dire que si tu veux te lancer dans le trail, etc., tu peux faire ce que tu veux à Bergen, tu peux le faire.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, à la fin de. C'était le week-end dernier, une course de la course des sept montagnes qui entoure la ville. Donc si tu veux, tu peux faire ça, c'est tous les ans au mois de mai. Il y a souvent des courses de trail. D'ici jusqu'au bord de la mer, les différents archipels qu'on a près du large, tu peux faire des marathons. On a aussi un grand marathon arrangé tous les ans. Et des courses en tout genre. Donc à ce niveau-là, on est bien servi aussi.
Et tant qu'on est dans le tourisme, en plus c'est ton métier le tourisme, alors, pour l'instant on est sur ton terrain, c'est
C'est
cool.
ça. Si vous venez à Bergen, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je suis guide touristique depuis que j'y suis. Ça fait 18 ans, ouais, donc je connais plutôt bien les routes et tous les sites, tout ce que vous voulez.
Et tout à l'heure, j'ai fait des recherches et je tombais sur des par trucs guide du routard et compagnie. Il y a des petites maisons en bois de toutes les couleurs à Bergen, et puis tu as l'air d'avoir des petites rues pavées toutes pentues là et tout. Les maisons, on dirait presque les maisons de certains petits films qu'on voit toutes mignonnes, etc. et tout. Ça fait un peu décor carte postale, je trouve.
Ben c'est ça. Ici, on a encore pas mal de petites maisons en bois. Et Bergen, c'est la plus grande ville de bois de Scandinavie qui reste. On a effectivement des petites maisons colorées, des petites maisons peintes en blanc. C'est très très mignon. En ce moment, c'est le printemps, donc il y a beaucoup de fleurs. Il y aura bientôt les rosiers en fleurs. Même à proximité des grands centres urbains, entre guillemets, on a des petits quartiers de maisons en bois. Comme ça, on se croit dans un village, même si tu es près du centre-ville, et on a plein de bulles comme ça, pavées de bois où tu peux te promener. Très
Donc,
chouette.
c'est pas un mythe, ces trucs-là, parce que tu sais, moi j'avais vu une série sur Netflix qui s'appelle Home for Christmas.
Ouais.
Et avec les petites maisons, la neige, les gens qui se baladent en luge, ça ressemble vraiment à ça l'hiver, la Norvège, ou c'est vraiment une carte postale là?
Non, mais ça ressemble vraiment à ça l'hiver.
C'est vrai?
Pas trop à Bergen, parce que la neige, elle tient pas longtemps, mais si tu vas sur Oslo, à l'est, donc à l'intérieur des terres aussi. Tu peux te déplacer en ski, il n'y a pas de problème. Certains hivers à Oslo, il y a tellement de neige que les gens ils sortent les skis en plein centre-ville pour se déplacer. Ça, c'est pas une exagération, ça se fait très
D'accord.
bien l'hiver.
Eh ben écoutez, en plus c'est une série que j'aime bien. Alors je suis déçu qu'il n'y ait pas eu une troisième saison parce que j'attendais avec impatience les aventures de de l'héroïne de la série. Mais elle est sur Netflix pour ceux qui veulent voir ça. Et c'est vrai qu'il y a de la petite chalet, de la petite neige, etc. Parce que forcément ça se passe à Noël. Mais bon, on n'est pas venu parler de Netflix. On est venu parler de course à pied quand même dans cette histoire-là. C'est parce que vraiment ce qui est intéressant, c'est ton parcours de coureuse. Et de néo-coureuse. Et parce que j'ai eu dans le podcast des dizaines et des dizaines d'invités. Ils font tous des kilomètres dans tous les sens, etc. Cette semaine, j'ai diffusé l'épisode avec Vanessa Morales. Elle fait 190 km comme ça et elle digère ça sans aucune crampe ou quoi que ce soit. Et on se dit, mais il n'y a pas que ça dans la course. Il y a aussi tous ceux qui commencent la course, qui cherchent à courir, etc. Et toi, tu en fais partie. Et c'est pour ça que je t'avais invité, justement, pour qu'on parle de ça. Tu connais très bien le podcast. En plus, tu fais partie des soutiens du Hamster's Running Club, etc. Donc, tu es à la maison, hein. Donc, on va pouvoir un petit peu discuter de tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de courir?
Alors, ce qui m'a donné envie de courir, je pense, c'est la pandémie au départ, en fait. Non, mais ça remonte à plus longtemps. J'ai un ami qui habite en Suisse. Et il avait perdu son père assez jeune d'un cancer. Et cet ami-là avait quand même un style de vie assez, je dirais pas trash, mais assez hard, quoi. Assez autodestructeur. Et il s'est mis à la course à pied pour gagner des années, de rallonger son espérance de vie, ouais. On va dire. Et puis, il me partageait ça avec moi. Il m'envoyait des screenshots de ses... de ses statistiques sur Garmin, etc. Il a fait plein de marathons. Enfin, il essayait pas de me vendre la course à pied, mais en fait de voir que, enfin, de d'où il partait et ce qu'il arrivait à faire, c'était hallucinant. En fait, c'est devenu un. Enfin, il fait des trucs aujourd'hui, des courses. Et puis bon, moi le sport c'était à des années-lumière parce que j'ai toujours été dans ma tête nulle en sport. Quand j'étais plus jeune, j'étais la petite fille empotée, comme vous pouvez dire. J'étais dernière sur les pistes au collège. Pour moi, le sport, c'est un truc qui n'était pas du tout, ça faisait pas partie de ma vie, quoi. Donc, à la base, je suis une grande sédentaire, des années de sédentarité. J'ai aussi été fumeuse. Et ce qui m'a pas poussée à faire du sport avant, c'est que j'ai la chance d'être naturellement mince, en fait. J'ai jamais eu de problème de surpoids ni rien. Je me disais, bah, c'est bon, j'ai besoin de rien faire.
Toi, t'as la formule magique, en fait. C'est-à-dire, sans rien faire, en restant dans le canapé, tu restes mince et tout. Tu te dis, bon, j'ai été bien doté par la nature, quoi.
Ouais, il y avait un peu de ça, je dois bien l'avouer. Hein. Franchement, c'était. Mais ça voulait pas dire que. Enfin, j'ai vu en commençant la course à pied qu'il y avait quand même du boulot au final. Mais en fait, c'est la pandémie qui a été le déclic au départ, parce qu'on était. En Norvège, on n'a pas été trop embêté par le confinement, etc. Mais il y avait quand même le travail à la maison, limiter les contacts sociaux et tout. Et ce qui faisait que d'avoir cette distanciation sociale, on n'osait quand même pas trop sortir dehors, même si on avait le droit d'aller dans la nature. Ça, c'est très précieux en Norvège, l'accès à la nature.
On en parlera justement du lien à la nature, vous avez, qui est en Norvège, et l'impact que ça a sur la course à pied, parce que on a souvent échangé sur le sujet, au sujet des marques, etc., mais même de petits détails auxquels on ne pense pas. Et ça, on se gardera pour la fin. Si, tu me fais penser si jamais je l'oublie, mais on en reparlera parce que c'est un élément très important. Mais on va revenir sur ton parcours, effectivement, sur ce moment-là où... Vous avez le droit de sortir, ce qui est une chance. Vous avez le droit de sortir à plus d'un kilomètre de chez vous à l'époque.
Ouais, on n'avait pas cette histoire de rayon là, complètement absurde. En voyant ça en Norvège, je me disais, mais je suis tellement mieux ici qu'en France. Ça n'aurait pas été possible. Franchement, vous n'avez pas été gâtés.
Mais on est tous devenus fous.
En France. On est moins nombreux aussi, donc c'était plus facile à gérer à ce niveau-là. Mais j'avais peur quelque part inconsciemment qu'on nous... qui est cette extinction de pouvoir faire l'expérience de la nature, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, résultat, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à aller en salle de sport. Je me suis inscrite en salle de sport parce qu'on en avait la possibilité. Donc, j'ai commencé par la PPG, si on peut dire. Et puis, la course arrivait après parce que je savais qu'il fallait que je me remette en place, en forme, que je me construise des muscles avant de sortir. Et au fur et à mesure, il y avait un petit engrenage comme ça. Je faisais du yoga et puis on prend conscience de qu'on a un corps qui est en bonne santé, qu'il faut en profiter. Et puis malheureusement, j'étais là un petit peu fort sur la remise en forme, on va dire. Parce que le problème, quand tu te remets à faire du sport, que tu pars de nulle part, il y a personne qui t'explique. Ok, faut pas aller à la salle tous les jours. Faut pas tout faire. Faut y aller doucement parce que tu peux te faire mal aux genoux, tu peux te faire mal aux hanches. Enfin, il y a pas d'avis, warning. Et moi, je suis rentrée, j'y suis allée trop fort dès le début. Donc, direct passage chez le physiothérapeute ensuite. Et je lui ai expliqué que je préférais être dehors. Et il m'a recommandé un programme que j'ai fait, que j'ai que j'ai commencé à faire l'été 2020. En fait, la reprise du sport, c'était l'été
2020.
C'était l'été 2020, en fait. Et la marche, c'est bien. J'ai toujours fait de la marche. Mais j'appelle pas ça spécialement du sport pour moi parce que déjà, la marche, j'en ai toujours fait. Et puis, courir, c'est plutôt... moi, j'aime bien la recherche de sensations, que ça bouge. Et avec la course à pied, ça me l'a très vite donné. Ça m'a donné une bonne dose d'activité et de sensations dont je me lasse pas, en fait. En plus de ça, je pouvais, en étant dehors, tu observes la nature. Tu renoues le lien avec ton corps, avec la nature. Donc, ça s'est fait progressivement comme ça en même temps. Mais c'est assez difficile d'expliquer comment ça s'est déclenché. Je crois que c'est la pandémie qui a été le truc.
Le déclencheur, ouais. Mais tu vois, tu dis que t'as un peu forcé au départ, là, quand t'allais à la salle, t'en as fait un peu trop, etc. Puis, en fait, peut-être que, je sais pas comment ça marche les coachs, si t'as des coachs qui surveillent un petit peu ce que vous faites, mais toi, ils te voient plutôt, t'as l'air d'être en bonne forme. Ils doivent pas imaginer que t'es une sédentaire qui, d'un coup, passe les portes. Non, mais après, tu sais, ils regardent un peu, ils tournent un petit peu autour, et ils doivent se dire, bah, toi, t'es sportif par nature. Donc, il te voit peut-être tous les jours à la salle, peut-être qu'elle vient d'arriver dans le quartier, qu'elle a décidé de s'inscrire, etc. Ils ont peut-être pas dit, bon, attention, on va lui mettre quelques warnings et dire de faire attention.
Bah ouais, ça se trouve, c'est ça. J'y ai pas pensé, mais c'est peut-être ça, quoi.
Il te voit comme ça, il dit, elle est en pleine forme et tout. Bon, elle vient tous les jours et tout. Et donc, ça t'es retrouvé quoi? C'est que tu t'es fait mal? Ça a provoqué quoi, en fait?
Bah, j'ai eu mal au genou. Et ça a duré un moment parce que quand j'ai commencé la course, j'alternais marche et course, hein, je faisais tout très correctement, hein. Mais j'avais, ouais, ça tirait dans les genoux pas mal. Ouais, c'est là que j'ai dû faire attention.
Et donc le physio, donc le physio, c'est kiné pour vous,
hein, ouais, physiothérapeute, je sais pas vraiment comment kiné, ça s'appelle. Ouais.
Il dit quoi à ce moment-là? Il fait un programme en disant il faut y aller plus doucement, faut renforcer, faut faire quelque chose de particulier.
Ouais, c'est ça. Il m'a dit t'es en surcharge, il faut changer le type d'exercice. Donc il me fait un programme pour la salle de muscu avec. Voilà quelques types d'exercices qui sont très bien pour la course à pied, la mobilité, le dos, renforcement de la partie supérieure, inférieure, les cuisses, tout ce que tu veux. Donc, je commence à faire ça, en fait. Et puis après, je commence à faire doucement un programme où on alterne. Enfin, ça commence d'abord en marche active, et puis après, insérer un petit peu de course. Alterner marche et course. Ça s'est vraiment fait très progressivement comme ça. Et ça a bien aidé, en fait. Donc, si j'avais su, je serais passée direct par le physio pour faire un check-up dès le départ, au lieu d'aller direct en salle et faire n'importe quoi, en fait.
Mais tu disais que tu étais sédentaire et tu te sentais en bonne santé parce que tu n'as pas de problème de poids ou quoi que ce soit. Mais finalement, tu as découvert quoi? Que tu disais, finalement, je n'étais pas si en forme que ça. C'est quoi? Tu te rendais compte que peut-être des choses où tu te sentais en forme, tu n'étais peut-être pas tant que ça, quoi.
Et puis, je m'en rends compte encore maintenant. Enfin, même si ça fait 2 ans que je me suis remis au sport, des années de sédentarité, tu les effaces pas comme ça. Et en fait, je sens que voilà, d'être beaucoup en position assise, penchée devant l'ordinateur au travail, assis des heures pendant les réunions, tu te figes. En fait, les muscles, ils se figent, les épaules se coincent, tu es plus souple, tu es plus aussi... c'est difficile de s'étirer, t'es un bout de bois, quoi, t'es comme un bâton, il faut tout assouplir, il faut boire beaucoup d'eau, il faut penser à plein de trucs, des choses que je faisais pas, donc il faut assouplir les cartilages, tu vois. Tout ça, c'est un travail, un entretien quotidien, et ça, je l'ai bien compris.
Et maintenant, 2 ans après, maintenant, tu te rends compte de la différence quand même de la personne que tu pensais être en bonne santé il y a 2 ans et la santé que tu as maintenant, tu vois une différence?
Ouais, alors déjà, j'ai aussi arrêté de boire de l'alcool après m'être mise à la course à pied.
C'est possible en Norvège de plus boire? Enfin, moi, l'image que j'ai des Nordiques, c'est que l'alcool, ça y va un petit peu fort. Mais après, c'est peut-être une mauvaise image, mais c'est l'image que j'ai en fait. Mais
Les Norvégiens, ouais. Non, ils boivent, c'est un peu comme en Angleterre, je crois. En fait, ils boivent beaucoup sur une période de temps très restreinte. En France, on boit un petit peu tous les jours. En Norvège, ils boivent tout en une soirée. Tout ce qu'on boit, nous. Donc, c'est une autre culture à ce niveau-là. Puis, ça coûte très cher aussi, l'alcool. Donc, moi, je fais des économies et puis je crois que j'investis sur ma santé aussi. Donc, le sport, ça m'a fait... Je pense que ça a un avantage là-dessus, même si avant, je ne sais pas si ça... Je ne ressentais pas des dommages par rapport à l'alcool, mais j'imagine que c'est mieux de ne plus boire à la base. Et puis, j'ai une meilleure endurance. Enfin, les tâches du quotidien... soulever des trucs dans la cuisine, faire des choses toutes bêtes, on a une meilleure on supporte plus, enfin c'est plus facile de se baisser de certaines choses. Donc au niveau endurance, supporter la vie de tous les jours, ça aide pas mal. Mais en contrepartie, voilà, moi j'ai 41 ans, il y a l'âge qui avance aussi. Donc ça se croise, il faut travailler aussi avec ça. Donc,
t'es pas vieille. Attends, attends, arrête.
C'est quoi ?
Je suis plus vieux que toi. Hein. De toute façon, alors, je le dis.
Ah oui, c'est vrai.
Mais donc, et puis notre histoire de, on veut tous être des vieillards et vieillardes bondissantes, galopantes, etc. Oui. C'est comme ça que ça passe. De toute façon, on peut pas rien faire contre l'âge. Donc, on pourrait dire que finalement, tu rajeunis malgré le fait que tu prennes des années. Tu sais, moi, je vois comme ça en fait.
Ouais, je pense que ça aide à ce niveau-là. Ça, c'est clair.
Et puis toi, t'es dans un métier où quand t'es dans le tourisme, donc quand t'es guide, tu bouges normalement. Enfin, mis à part les périodes où il y a plus de tourisme, où il y a peut-être plus parce que peut-être t'as pas eu tant de travail que ça avec la pandémie, etc. Mais enfin, tu dois être debout une bonne partie de la journée. Tu dois avoir des gens en permanence avec toi ou pas loin. Enfin, tu dois, imagine, tu dois être souvent sur le terrain et tout. Ça doit être, tu dois être plus à l'aise normalement quand même, non?
Ouais, quand je guide, ouais. On a beaucoup de comment dire de visites guidées à pied, 3 heures, 2 heures, donc ça fait cavaler aussi. Mais pendant la pandémie, pendant 2 ans, on n'a plus rien eu, tu vois. Ouais. Donc j'avais plus d'activité quelque part avec cette marche-là non plus. Donc il y a vraiment plus d'occasion de sortir, rien que par rapport au travail aussi. Ouais. Puis à côté, j'ai un travail de bureau qui est assez exigeant où tu es tout le temps assis. Donc, j'avais plus aussi ces sorties de guide pour compenser un peu être dehors et être en activité comme ça. Mais c'est vrai que c'est guidé, c'est actif aussi.
Et donc, en 2020, tu te remets comme ça à l'activité. Tu te remets à courir. Au début, tu faisais quoi comme distance pour donner à peu près un ordre d'idée?
Bah, je comptais pas en kilomètres, hein, c'était en minutes. Donc, je faisais 2 minutes de course et j'étais au bout de ma vie.
Comme tout le monde.
C'était ça, hein. Toute rouge, j'en pouvais plus. Franchement, j'aurais jamais cru avoir une évolution en repensant au début. C'était vraiment l'acide lactique que tu as dans le goût de l'acide lactique dans la gorge, tu vois. C'était vraiment, c'était pas agréable. Pendant, mais après, c'était super satisfaisant. C'est ce que tout le monde dit. Et puis, c'est vrai. Puis, j'avais repris pendant l'été. Donc, quelque part, le fait d'explorer des nouveaux chemins, de voir la nature, les petits oiseaux, le soleil, la mer et tout, c'était quelque part, ça te permettait de focaliser pas forcément sur la souffrance, mais aussi sur les paysages, être en pleine conscience avec la nature. Donc, ça compensait, là, ça permettait de se surpasser, en fait, à ce niveau-là. Mais j'ai commencé vraiment petit à petit. Et puis, en même temps, à cette période, j'ai trouvé le Amsterdam Running Club. Et ça aussi, ça a permis de construire la motivation, en fait, d'écouter les podcasts. Parce que pendant la pandémie aussi, on commençait à se faire un petit peu chier quand même. Je demandais à mes copines en France, oui, si vous pourriez recommander des émissions de radio et tout. Et les podcasts, j'écoutais pas forcément. Et en commençant à faire du sport, j'ai cherché des podcasts de course à pied. Et je suis tombée très vite sur toi, en fait. Donc ça a aussi contribué à faire un tout pour la motivation, en fait, très clairement. Parce que j'ai trouvé une communauté avec... même si j'étais pas encore... Enfin, je suis pas parmi les flèches ni les coureurs avertis et tout ça. Mais on a été inclus, même quand tu arrives comme débutant, t'es inclus, t'es considéré comme... tant que t'as envie de courir, tu fais partie du... c'est bon. Et cette approche-là, en fait, ça stimulait encore plus. Donc ça, c'était super intéressant. De courir, sortir aussi, écouter les podcasts et...
Mais je le dis parce que c'est un élément qui est important. Parce que l'idée, c'est même pas de courir, c'est de bouger, en fait. C'est du moment que tu as envie de bouger, finalement, Dans le club, il y a toujours des gens qui vont bouger comme toi, etc. Et tu parlais de la motivation, et je le redis, et là je prends la casquette préparation mentale, c'est un des ingrédients, l'appartenance à une communauté, le sentir qu'il y a des gens qui font la même chose que toi, fait partie en fait aussi des ingrédients de la motivation. Et les jours où t'es pas trop motivé, tu écoutes quelqu'un, les aventures de quelqu'un d'autre dans le podcast, ou t'écoutes, tu vas mettre un petit message dans l'Amsterdam Running Club, il y a toujours quelqu'un qui va mettre un petit message, tu vas voir qu'il y en a d'autres qui débutent, tu vas voir qu'il y en a d'autres qui font des trucs, tu pourrais, ils pensaient même pas en être capables alors qu'ils ont débuté quelque temps avant, et tu dis, ah bah tiens, pourquoi pas moi un jour, etc. Et c'est aussi ça le rôle, l'appartenance. Parce que je sais pas si dans ton entourage, t'avais des gens qui couraient, parce que tu parlais de ton ami en Suisse, mais en Norvège, tu courais toute seule, ou t'avais d'autres gens pour courir?
Non, je courais toute seule. Après, j'ai commencé à avoir des gens qui couraient avec moi parce que je postais sur Instagram ce que je faisais. Puis il y en a qui me disaient, ah ouais, tu cours toi et tout. Ah, j'ai envie de venir, nanana. Et j'ai rendu avec des personnes comme ça. Mais au départ, c'était ma propre volonté toute seule.
Et comme quoi, hein, c'est un sacré réseau social, hein, la course à pied, parce que il y a des marques qui font de la pub en disant on est le réseau social, etc. et tout. Mais on l'a dit, on l'a fait, on avait parlé avec Estelle aussi sur cette histoire-là, elle aux États-Unis. Mais c'est vrai que du moment que tu dis que tu cours et que les gens voient que tu cours, c'est plus facile d'agréger un petit peu, j'ai envie de dire, si tu veux trouver quelqu'un pour courir, etc. Tu peux arriver à trouver des gens qui peuvent t'accompagner, etc. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des éléments de, on va dire, de lien. On parlait de liens sociaux au départ qui pouvaient manquer, etc. Et justement, ça en fait partie.
Ouais, comme j'ai déjà entendu plusieurs fois aussi commenté par d'autres, la course à pied, c'est un sport, c'est individuel. Mmh. Donc, c'est plaisant parce que tu as le côté je décide quand je sors, etc. Enfin, mais en même temps, t'as tu peux y inclure le lien social quand tu en as envie, quand tu veux. Ça, c'est pas mal. Il y a cette possibilité-là, en fait,
ouais.
qui est chouette.
Surtout que maintenant, tu fais des courses.
Ben voilà, donc faire ça en troupeau, je l'ai fait aussi.
Non, parce qu'on va arriver à ça, c'est-à-dire qu'on prend des débuts, des tout débuts, là, comme ça, il y a 2 ans, environ, hein, à... C'était quand ta première course?
C'était en septembre l'année dernière, en 2021, ouais. Mmh.
Mmh. Donc on va dire une grosse année à peu près à tes débuts.
Ouais, parce que après les débuts, donc été 2020, il y a l'automne qui est arrivé, la trêve hivernale, parce qu'on a des hivers assez assez compliqués chez nous, très longs, très pluvieux à Bergen, et donc pour la motivation, ça, les hivers, c'est très dur. Mais on avait eu un défi l'hiver 2020 à Knack, qui a été interviewé il y a peu de temps aussi.
Ouais.
Il avait fait le défi du solstice d'hiver.
C'est toi qui l'as gagné en plus sur la photo, non?
Ah, c'était le prochain, c'était l'autre d'après.
Ah.
Parce qu'il en a refait un l'année, il en a fait d'autres, il en a fait
ouais,
l'été,
fait deux,
l'hiver.
Ouais.
Mais je crois qu'il y en avait un l'hiver aussi.
Mmh. T'en as gagné hein, des défis du solstice sur tes photos.
Ouais, parce qu'il y avait les photos aussi, et puis ouais. Et puis il y avait l'assiduité. Donc j'étais pas la première en rapidité, mais je sortais tous les jours.
Non, et puis il faut le dire, et attends, et franchement, il faut le dire, mais le coin où tu habites, Bergen, c'est quand même magnifique. Hein. Tu as des vues avec la mer en dessous, les montagnes, les petites montées, etc., les paysages, c'est quand même magnifique. Et en plus, ça avait fait des super photos. Donc, c'était, tu dis oui, il y a l'assiduité, c'est pas plus rapide, etc. Mais j'aime bien, moi, ce côté-là aussi, parce que se dire, tu sais, quand je parle de positive running, d'avoir le côté positif, etc., tu dis, bon, des fois, ça peut être compliqué de monter au sommet, parce que l'autre jour, je t'ai vu là dans un... Ça avait l'air raide là où tu montais, là au-dessus de la petite colline. Là. Mais tu dis, bon, c'est un peu raide, etc. Mais une fois que je suis là-haut, j'ai le grand spectacle quand même.
Oui, c'est clair. Tu as la récompense qui, au final, est pas si difficile à avoir parce qu'on a des accès quand même assez rapides. Donc, on est très vite récompensé. Ouais. Tu as la vue sur le large, la mer du Nord. Il y a l'Islande à l'autre bout du fjord. c'est vraiment pas mal. Ça, c'est clair.
Et donc, alors, tu fais ta première course, tu m'as dit à peu près en septembre 2021. C'est quoi l'envie de faire une course? Pourquoi tu t'inscris à cette course?
Pourquoi je m'inscris? Alors, c'est parce que c'était la récompense, ça allait être la récompense de tous les efforts que j'avais commencé à faire, en fait, si on peut dire. Et ça permettait de mesurer le travail. Mesurer le travail fourni et puis faire quelque chose de complètement nouveau que j'aurais jamais cru de toute ma vie, même pas en rêve, que un jour j'aurais un dossard. Alors qu'avant, quand je voyais des gens courir, je me disais, mais ils sont complètement malades dans la rue. Et maintenant, c'est moi, quoi. Donc, franchement, totalement impensable dans ma vie de fumeuse sédentaire. Et donc, voilà, c'était un truc tout nouveau. Et rien que d'y penser, voilà, ça créait un plaisir total, quoi, de faire un truc que j'avais jamais fait. Et puis d'entendre les autres en parler aussi. Effectivement, on a envie de le vivre pour voir ce que ça donne. Et je m'étais super bien préparée, en fait. Donc, au printemps 2021, après la trêve hivernale, je reprends un programme pour me remettre en forme. Tout se passe bien. Et puis, il y a Eric de la communauté des hamsters qui commence à m'aiguiller un petit peu. Ce qui fait qu'en fait, j'étais super préparée. J'avais la distance. J'ai commencé à avoir la distance dans les jambes. J'ai découvert le fractionné, des trucs comme ça. Et j'étais super bien suivie. Donc, c'était vachement cool. En fait, je suis arrivée sur la ligne de départ. J'étais pas stressée. À anticiper, être malade la veille et tout. Je savais ce que je devais manger. J'avais un plan de course. Donc, je me sentais avec la communauté derrière, quelque part. Donc, hyper apaisée et juste excitée de partir avec l'ambiance. Et puis, voilà, j'avais confiance en mes performances. Et ça, c'était une super sensation aussi d'arriver à préparer un truc que tu n'as jamais fait. C'était hyper satisfaisant.
Ouais, et puis, il faut le dire, Eric, il a 20 ans, 25 ans de course derrière lui. Il a fait des grandes distances dans tous les sens, y compris parmi les plus grandes courses que l'on connaît. Hein. Donc, il a une vraie expérience. Et c'est vrai, parce qu'on parle du Hamsters Running Club, mais il y a plein de gens qui ont des expériences totalement différentes. Et c'est vrai qu'il y a des coureurs qui courent depuis très longtemps, qui sont présents. Certains font aussi du vélo, certains font d'autres activités, etc. Et c'est aussi ça qui enrichit la vision des choses, etc. Parce que pour Eric, c'est quoi ta première course en distance?
La course?
Ouais.
À moi, 5 km.
5 km. Pour Eric, 5 km, j'ai envie de dire, c'est l'échauffement de la plupart des courses qu'il a pu faire dans sa vie. Mais n'empêche que pour toi, ce moment-là, c'est vraiment un truc que t'as jamais fait.
Et c'est le Mont Everest.
Ouais. Et là, t'as l'expérience de quelqu'un qui dit, ouais, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu peux faire comme ça. T'as les encouragements de tout le monde, etc. Tu peux faire comme ça, ta stratégie, tu pars. Il t'a dit quoi d'ailleurs? Tu pars cool? T'accélères ou qu'est-ce qu'il t'a dit?
Bah, c'est ça, c'était le négatif split au final. Quand j'y repense, c'était, pas partir comme une fusée. Et puis y aller progressivement. À des temps que j'avais exercé en entraînement. Et puis, au dernier kilomètre, tu lâches les chevaux, quoi. Donc, j'ai été préparée à ça et ça avait vraiment bien marché.
Et tu as doublé plein de monde, en plus, je suis sûre.
Ouais. Le truc, au départ, pour me rassurer, en fait, quand même, ce qui m'inquiétait, c'était d'arriver dernière, même en étant préparée. C'est pas grave d'arriver dernière, c'est pas ça. Mais il y a l'ego, tu sais, l'histoire de l'ego et
tout. Bien sûr.
Et puis, j'avais regardé les résultats dans ma catégorie sur cette distance, les résultats des années précédentes. Et en fait, par rapport au temps d'entraînement, je me disais, c'est bon. Ça m'a vachement rassurée aussi. Mais ouais, j'ai fait tout comme il faut. T'as les flèches qui sont parties comme des boulets de canon. Et effectivement, t'es tentée de faire pareil. Mais donc, j'étais partie aussi un poil trop vite, mais je faisais attention. En fait, je m'étais dessiné sur la main le plan de course avec les temps. Du premier au deuxième, troisième, pour pas oublier. Donc, je revenais sur ma montre et la main de temps en temps. Et au final, après, je remontais comme le saumon qui remonte la rivière. Et là, je me disais, OK, toi, t'as pas préparé ton plan de course. Tu t'es déjà cramé et je te dépasse alors que j'ai aucune expérience. Et c'était super, super satisfaisant. Je me suis même pas arrêtée au ravito. Je voulais pas en perdre une minute, j'avais fait pipi 15 fois avant de partir, pour être sûr de pas avoir envie d'aller aux toilettes.
Mais c'est ça qui est cool avec le negative split, faut le dire, hein, quand on arrive à le faire, c'est que t'as forcément ceux qui partent vite et qui vont toujours de façon qui vont beaucoup plus vite, mais t'as ceux qui courent à peu près à la vitesse que toi, mais qui partent un peu trop vite et qui n'arrivent pas à tenir la vitesse et qui, à bout d'un moment, tu vas finir par les rattraper. Et c'est super satisfaisant d'arriver en rattrapant les gens plutôt que d'être à l'inverse, de voir les gens qui te rattrapent et de les voir doubler et toi de pas arriver à tenir parce que t'es HS. Combien de cours j'ai vécu en me faisant doubler, et j'ai raconté l'histoire du papy qui me double sur mon dernier trail, et j'ai encore en travers de la gorge, hein, celle-là. Mais c'est comme ça, et c'est vrai que le negative split, on en parlait il y a pas longtemps dans l'Hamsters Running Club, c'est vraiment un moyen, de finir sur une note qui est super positive, parce que au lieu de te rattraper par plein de gens, de dire oh, je suis au bout de ma vie, j'arrive pas, bah finalement t'es arrivé, mais alors j'y pas super confortable, mais t'es arrivé quand même avec la satisfaction de te dire j'arrive à doubler, je retrouve des gens, etc. Et t'as plus dans la tête l'esprit que t'es une championne, en fait.
Ah, c'est ça, parce que tu sais que t'as réussi à canaliser ton énergie, à la répartir comme il fallait, à pas tout cramer n'importe où, dans tous les sens. Et ouais, d'avoir fait les choses sérieusement aussi en amont, en fait, et d'avoir réussi à canaliser ça pendant la course, effectivement, c'est une grosse satisfaction. Donc, je suis contente d'avoir découvert ça dès le début et pas avoir fait une course n'importe comment qui m'aurait peut-être dégoûtée de continuer, en fait. Donc, je suis très contente d'avoir reçu ces conseils et tout ça.
Et alors après, ça, c'était ta première course, septembre. Et après, bon, c'est à nouveau l'hiver, quoi.
Bah voilà. Alors ça, mon pauvre, ouais, l'hiver. Là, l'hiver 2021-2022, c'était la catastrophe. En fait, là, tout a failli partir en live, comme on peut dire. Parce qu'en fait, je m'étais préparée pour une course, mais je m'étais pas préparée pour la suite, en fait. J'avais pas d'objectif précis pour la suite. Donc, comment dire ouais, j'avais continué à courir un petit peu en automne. Ensuite, on s'est ramassé des trombes de pluie, l'obscurité qui arrive. Et on a beau se dire... moi, il y a des gens qui me disaient, ouais, en gros, t'as qu'à te bouger les fesses. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que en Norvège, on a des hivers très longs. On est dans un climat qui est très spécial. C'est pas la France. C'est pas les mêmes latitudes. Et tous les champions du monde, par exemple, Bergen, c'est la ville de Christian Blumenfeld qui a remporté les Jeux Olympiques, médaille d'or là, à Tokyo. Qu'est-ce qui a remporté le championnat du monde d'Ironman là récemment? Oui. Enfin, il a tout raflé.
Oui, qui est pour son Ironman, lui... le premier, il le gagne, je crois. Enfin, c'est un truc comme ça, ouais.
Ouais, mais lui, il s'entraîne pas à Bergen. Il est en Espagne les trois quarts du temps, tu vois.
Bien sûr.
Donc, moi, je reste à Bergen et je dois me taper le climat l'hiver. Et donc, cet hiver, ça a été très dur. Et donc, j'ai eu 3 mois où j'ai rien fait. Je suis même pas allée en salle. Et c'est une très grave erreur parce qu'en fait, le temps a travaillé contre moi. Et quand j'ai voulu m'y remettre au printemps, j'ai réussi à me faire une périostite presque directement. Tu vois, parce qu'en fait, j'étais en dégradation pendant les 3 mois de sédentarité qui avait repris le dessus.
Oui, sauf dans ta tête, ou dans ta tête, t'étais encore la coureuse du 5 km.
Voilà, je me disais, les muscles, ils ont une mémoire, je vais repartir comme une fleur au printemps. Et ben non, pas du tout.
Mais
donc,
ça,
je l'ai payé très cher.
Ouais, mais moi, je l'ai vécu après le confinement, en fait, où j'avais pas couru pendant... Combien de temps il a duré le confinement? 10 semaines ou 8 semaines. Et au bout de... Parce que en fait, je suis retombé tout à l'heure, hier, là, sur mes stats, Strava, il m'a fait un rappel. Et sur mon Strava, c'est marqué... j'ai voulu faire 2 fois 7 minutes et puis j'ai mal à mon mollet. Et en fait, c'était juste parce que effectivement, c'était la mémoire qu'on a de comment on courait 3 mois avant. Si on repart sur exactement pareil, faut pas oublier qu'en course quand même, au bout de 15 jours, on a quand même vraiment perdu pas tous les bénéfices, mais une grande partie des bénéfices de la course. Et donc oui, il faut repartir doucement. Donc après, si tu recharges la bête, j'ai envie de dire, et attention, avec c'est gentil quand j'ai chargé la bête, mais si tu recharges le comme tu avais fait après ton 5 km, c'est sûr que ton corps, il est pas habitué, il s'est déshabitué, en fait.
Bah, je l'ai bien compris, c'est une leçon, on va dire, que je vais apprendre, mais je m'en serais bien passé quand même, mais j'ai compris. Parce que là, c'était pas 15 jours, c'était vraiment, ouais, c'était 3 mois et... Mais ouais, la motivation était vraiment très fortement redescendue parce que je m'étais pas mis d'objectif intermédiaire jusqu'à la reprise des beaux jours. Il m'aurait fallu ça, en fait.
Ouais.
Et même en le sachant, j'ai pas réussi à me discipliner pour le faire moi-même.
Et tu fais pas du ski, enfin, parce que après on peut dire, enfin, la Norvège c'est quand même le pays du ski et du biathlon, du saut à ski aussi. Non, il y a beaucoup de squats.
Oui, du saut à ski.
Alors, je te dis pas qu'il faut faire du saut à ski sur les gros tremplins, mais c'est... mais en tout cas, tu pourrais faire du... Enfin, tu fais pas de ski l'hiver ou...
Si, j'en fais un petit peu, mais j'en ai pas fait beaucoup cet hiver. J'y suis allée qu'une fois, en fait.
Ouais.
Donc, pour te dire, enfin, j'ai vraiment rien... Cet hiver, j'ai rien fait. Donc, voilà. C'était la facture à payer. Donc là, je suis en train de m'en remettre tout doucement. La périostite, ça va beaucoup mieux. J'ai le quadriceps là qui commence à me titiller un peu, mais voilà, je fais beaucoup de PPG, et j'essaye de faire de l'entraînement croisé en fait, et de reprendre très très doucement pour tenir les 5 km et maintenant aller aux 10, ça c'est le prochain objectif. Même si j'aurais bien aimé faire un semi cet automne et enchaîner sur un marathon l'année prochaine, mais le semi cet automne, je vais devoir peut-être le remplacer par le 10 km parce que vu le retard que j'ai pris avec la périostite et tout ça, ben, il faut réajuster les objectifs.
Ah ouais, voilà. Attends, je suis en train de calculer, tu es en train de te dire que tu pourrais faire un marathon pour tes 40 années, tes 42 ans en fait.
Voilà, te copier en fait.
Ouah.
Ouais.
Ah oui, alors... Et oui, donc effectivement, et oui, alors je comprends un peu l'histoire. Bon, bah après, et l'année des 42 ans, je sais pas quel jour est ton anniversaire. Tu sais, moi, c'était 42 ans plus 6 mois presque, hein, le jour où j'ai fait mon marathon, parce que je m'étais blessé, le jour où ça aurait dû tomber au départ. Donc tu peux peut-être le décaler, je sais pas comment ça va marcher chez toi, mais, tant que c'est dans l'année des 42, ça marche encore. Je veux dire, vaut mieux le faire en étant en pleine forme et en profiter à fond que de dire, je vais essayer de bousculer le calendrier.
Ouais, ça devrait être. Je crois que c'est envisageable, que c'est pas un plan sur la comète, mais il faudrait que j'arrive à faire déjà 10 km entre temps. Parce que ça va être une grosse étape. Parce qu'il faut arriver à caser aussi les entraînements. Parce que ça prend de plus en plus de temps quand tu augmentes en distance quand même. Il faut faire des sorties longues, des choses comme ça, et il faut que je casse ça entre le travail. Et la petite, etc. Donc à voir, mais ouais, c'est le but pour les 42 ans. À un moment ou à un autre, même en off, je m'en fiche, ouais, je le ferai.
Mais tu peux le faire en off, tu peux le faire en marche, tu peux partir dans tes montagnes en alternant marche, course, etc. et arriver à 4295 à l'arrivée et le faire. Ce qui est important, c'est d'avoir la perspective. Et tu l'as dit, les objectifs. Parce que c'est intéressant quand même de revenir sur ce point-là. C'est-à-dire que ton 5 km de l'automne précédent, finalement, c'était ton objectif, ton Everest de ce moment-là. Derrière, t'as pas d'autre objectif. Alors que c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait se dire, j'ai un objectif court terme, moyen terme, long terme. Et ton objectif long terme, peut-être le marathon, tu l'avais peut-être pas trop en tête à l'époque, ou je sais pas si tu l'avais déjà en tête, mais se dire comment je rattaque. Et parce que j'ai eu tellement de questions sur le blues post-marathon, mais finalement, t'as fait une sorte de blues 5 post-première course. L'euphorie, c'est-à-dire que tu te prépares pendant des semaines et des semaines pour ça, et ça couronne ta première année de reprise, que d'un coup derrière, si t'as pas fixé un autre objectif, une autre course, et puis en plus avec votre hiver à vous et tout, moi j'ai couru tout l'hiver en short, hein. J'ai pas mis un pantalon une seule fois, donc j'ai des images du 24 décembre où je cours en short et presque en t-shirt. Avant d'aller au réveillon de Noël, tu vois, donc quelque part comme ça, ce que je pense que tu peux pas faire toi de ton côté. Et puis j'ai du soleil en plus. Je sais pas si tu avais du soleil ce jour-là, mais j'ai couru même au mois de janvier, j'ai couru en short. Il y a juste un jour, il y avait beaucoup de verglas, mais on était à moins 12, moins 13 dans ces zones-là. Mais juste un jour. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est les conditions le permettent, etc. Mais c'est vrai que te dire, si t'as pas un objectif et que t'as cet hiver qui est pénible. Tu bouges pas trop, tu peux vite tomber finalement dans la désadaptation, parce qu'en fait le terme exact c'est la désadaptation par rapport au corps, et je comprends qu'après soit compliqué de repartir, et la périostite en plus, c'est un peu, moi pour en avoir fait une, c'est un peu traître je trouve comme truc, parce que ça fait mal quand même quand tu marches et tout, c'est pas agréable. Hein.
Non, pas du tout, non. quand ça lance comme ça, c'est... Et en plus, je me suis fait soigner ça par le physiothérapeute. Il m'a fait du dry needling, tu sais, les aiguilles.
Ouais, et ça a marché.
Enfin, c'était la torture. Ça a aidé, mais c'était franchement très douloureux. Donc,
Je sais plus qui c'est qui m'a conseillé ça. Et je sais pas si c'est pas Hermano qui m'a dit qu'il fallait que j'essaye ça.
Ouais, Hermano, il en fait.
Ouais. Ouais.
Il fait des aiguilles.
Ouais, mais je crois que c'est un fakir, Hermano. parce que je sais plus pourquoi il m'avait dit qu'il fallait que j'essaye ça et tout. Peut-être pour mes douleurs, ma sciatique ou je sais pas quoi. Et quand j'ai vu les images, je me suis dit ouf.
Parce que ça te déclenche des micro-crampes. Ouais. Et où il te la met, hop, il te fait une petite crampe. C'est super désagréable. Et puis tu dois les garder un moment allongé. Non, c'est pas. Il paraît que c'est efficace, mais c'est. Ouais. Après, avec la périostite, en sortant des aiguilles, de la séance d'aiguilles, t'arrives presque plus à marcher.
Vrai.
Ça met un peu de temps à agir et à détendre. Ouais, c'est spécial.
Ouais, bah alors tu m'encourages pas à essayer un jour. Hein.
Non, fais tout pour éviter, c'est le mieux à faire. Ouais.
De toute façon, et je le répète, hein, le truc à éviter, c'est la blessure. Hein, tu l'as dit, la périostite, ça prend un retard. Non, mais l'arrêt, déjà, l'arrêt voulu, déjà, tu prends du retard. Mais l'arrêt involontaire avec une périostite ou n'importe quelle blessure, moi, je l'ai vécu avec mon opération du genou, je l'avais déjà vécu avec la périostite, là, tu en parles de la périostite, c'est le pire des trucs. Parce que ça pourrait, et là tu t'es reparti, mais ça aurait pu te mettre totalement à plat en fait. Tu pourrais être aspiré par ton canapé à ce moment-là.
Ouais, ça aurait pu, j'aurais pu prendre ça trop tard en fait. Donc dès que j'ai ressenti, je pense que j'ai pris ça avant que ce soit vraiment trop la catastrophe. Je suis allée assez vite chez le physiothérapeute parce que c'était une douleur inconnue en fait. J'avais jamais eu ce genre de douleur, donc ouais. Donc j'ai bien fait de pas attendre, mais le mieux c'est clairement de faire les choses comme il faut et pas se mettre dans ces situations là.
Ouais, j'aime bien le bonheur du sport, c'est que tu découvres que t'as des nouveaux muscles, des nouveaux trucs qui fonctionnent. Tu ne savais pas que ça existait. Et moi avant ma périostite, je savais pas ce que c'était le périoste. Je le dis franchement, quand le médecin, quand le kiné et Thomas Laurent Blanchet, il me dit oui c'est un truc des releveurs. Le quoi? Après, je suis allé potasser pour voir un petit peu l'histoire, etc. Mais enfin, on découvre. Et j'avais lu un jour, c'est Bernard Werber, je crois. Tu sais, qui écrit les fourmis et tout. Je crois que dans un livre, il dit qu'en fait, on découvre un muscle au moment où on a mal. Enfin, il y a plein de trucs. T'as même pas conscience qu'ils sont dans ton corps. Mais le moment où il te fait mal, ou le moment où tu l'actionnes, il te fait mal. Soit t'as une courbature, soit tu te blesses. C'est là que tu te rends compte en fait que t'as des muscles qui existent alors que t'en avais pas conscience avant. Et c'est intéressant le sport. Hein. Tu te dis quand t'as repris la salle, t'as découvert que t'avais peut-être des douleurs peut-être à certains endroits. Là, tu parles de périostite. Tu pourras faire. Alors, je te souhaite pas de faire tout le corps humain comme ça, blessure par blessure. Mais en tout cas, ce qui est fabuleux, c'est le pied. C'est là où il y en a le plus. Il y a des trucs incroyables dans le pied, le nombre de muscles, etc. Mais c'est là où aussi tu découvres le fonctionnement de ton corps.
Ouais, tout à fait. Tu vois à quel point, enfin, la complexité de la, enfin, on appelle pas ça une machine, mais c'est, je sais, mais c'est d'une complexité. Enfin, tu vois, chaque composant a un rôle bien précis. Si ça va pas, tu le sens tout de suite. Et c'est assez fascinant. C'est ce chemin-là aussi est intéressant en fait quelque part, même si vaut mieux éviter les blessures, mais ça t'apprend à respecter un peu plus le système, quoi.
Ouais. Bon, et pour le petit clin d'œil sur les machines, parce que ceux qui n'ont pas vu mon post Instagram, ils le sauront, c'est... en fait, on n'est pas des machines parce qu'on est plus évolué qu'une machine. Et c'est ce que je dis désormais, c'est que si on achète un téléphone, 6 mois après, on trouve déjà qu'il est trop lent, il ne fait que se détériorer. Une voiture ne fait que se détériorer. Le corps humain, du moment que tu le fais fonctionner, ne fait que s'améliorer. En tout cas, du moment que tu n'arrives pas, tu ne pousses pas trop loin, il ne fait que s'améliorer. Et tu l'as dit, tu as constaté les bénéfices, etc. au quotidien, tu t'es rendu compte de certaines choses. C'est pour ça qu'en fait, on est bien plus que des machines. En fait, on est bien plus que des machines. Et c'est un élément qui est important, que je pense qu'il faut rappeler, parce qu'on dit trop que le corps est une machine, mais en fait, on n'a pas de bouton sur lequel on appuie, où ça démarre du premier coup, tout va marcher, etc. Il y a des jours, tu peux courir facilement, puis le lendemain, tu n'arrives plus à courir. Il y a un jour, tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas à avancer? Moi, ce matin, c'était mon cardio. Je dis, mais pourquoi mon cardio, il est aussi haut? Alors que normalement, il devrait être bas à cette heure-là, etc. Bah, c'est qu'on n'est pas des machines, on n'est pas un ordinateur. Sauf qu'on appuie sur une touche, ça marche du premier coup. Donc, ça fait partie des éléments. Bon, ta périostite, tu t'en es sorti ou c'est encore, elle traîne un petit peu, là?
Ouais, je sens que si je fais n'importe quoi, ça va repartir. Enfin, c'est encore très, très léger, mais c'est pas, je peux marcher tranquillement, courir tranquillement. Il y a plus de problème à ce niveau-là.
Et est-ce que ton physio t'a dit d'où elle pouvait venir, sa périostite?
Bah, pareil, c'était une reprise trop, une surcharge.
Ouais.
Donc, c'est comme quand j'ai commencé à faire du sport, j'étais allée trop fort. Là, c'était les genoux. Et puis, la reprise de la course, en m'imaginant que les muscles se souviendraient, enfin, je pourrais repartir comme en 40, alors que non. Voilà, c'était une surcharge, quoi. Tout simplement. En fait. Donc, il a fallu que je refasse des exercices pour renforcer les tibias, les élastiques et compagnie. Marcher au début avant de recourir, ensuite alterner marche-course. Voilà, c'était la recette.
La recette. De toute façon, il n'y a que cette recette-là.
Il n'y a que ça.
Elle marche à coup sûr. Et en plus, on peut la sortir tant qu'on veut. Elle marche à coup sûr pour les débutants. Elle marche à coup sûr. Pour les post-blessures, elle marche à coup sûr. Pour quand on est fatigué, elle marche. Elle marche à coup sûr, cette recette-là. Tout le temps, ça marche. Il t'a fait faire des exercices particuliers quand même. Je sais pas, tu dis parler avec des élastiques, des trucs comme ça. Il t'a fait faire des trucs aussi, te mettre sur la pointe des pieds, marcher sur la pointe des pieds ou des choses comme ça.
Oui, oui. Ça, je l'avais. Enfin, des exercices que j'avais déjà vus chez toi, tu sais, pour sur les marches.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il m'a donné d'autre? Ouais, les élastiques. Mettre l'élastique autour du pied et bouger gentiment le pied pour faire travailler le tibia. Il y avait d'autres... et puis d'autres types de renforcement, en fait. Le tronc, les hanches, les cuisses sur les machines. Enfin, des... ce que j'ai déjà vu sur, par exemple... enfin, j'allais citer des noms, mais tu sais, Running Addict, des fois, il met des vidéos de PPG, des trucs comme ça. C'est des trucs que je devrais faire en temps normal, que j'avais pas du tout fait pendant l'hiver. Et ça aussi, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est quand on commence à faire de la course à pied déjà, il n'y a pas le forcément. Si tu regardes les programmes que tu trouves, bon, le programme, il te dit juste tu dois courir tant, tu marches tant, machin, mais il n'y a pas tout ce qu'il y a autour, le programme de préparation physique générale, le renfo, les étirements. Il n'y a pas d'indication là-dessus. Enfin, c'est toujours très isolé, alors qu'il faudrait un package plus complet, en fait. Donc, moi, c'est aussi comment ça s'appelle en français ? Merde, pardon, tu comprends ?
Non, je comprends, moi.
Par de la méconnaissance, je ne sais pas comment dire ça. Tu vois, si j'avais su tout ça, c'est aussi la faute, pas c'est ma faute à moi, mais c'est aussi le fait que quand tu te renseignes sur le sujet, c'est direct programme, très peu la préparation physique, c'est très peu la préparation des objectifs, découper ses objectifs, la suite, l'après-course, la redescente, comment on la gère. Enfin, il manque tout le côté holistique, tu vois, qui fait que ça te fait faire des erreurs aussi, quoi, parce que tu... Il n'y a qu'un focus sur une seule chose, c'est courir et basta. Donc
mais ça, alors, je vais te dire, ce matin, j'ai lu un bouquin, Reprendre la course. Il y a trois lignes hein, sur comment reprendre la course. Après, il y a un programme avec de l'alternance marche-course, etc. Et il y a quasiment aucune ligne qui dit qu'il faut peut-être se reposer à tel moment. Alors, si c'est marqué, n'en faites pas trop, mais ce qui est très vague dans cette histoire-là. Mais il n'y a pas de reprise de musculation, de PPG, il n'y a pas de petits exercices pour les pieds, la récupération. Tu vois, c'est des trucs qui n'existent, qui seront quasiment pas marqués dedans. Et alors, il y en a qui le font, il y en a qui le marquent, il y en a qui le marquent pas, etc. Mais ce matin, j'ai souri parce que quand même, je vois le bouquin et je dis, oh, bah, dis donc, reprendre la course à pied en trois pages. Je dis, c'est un chouette programme. Et je dis, c'est bizarre, il y a des étapes qui semblaient manquer. Alors, peut-être qu'elles apparaissent après, plus loin dans le livre. Hein, pour l'instant, j'ai rien. Et puis, c'est pas un livre qui est spécialisé que sur la course à pied. Mais sur le coup, ça m'a fait un peu sourire. Mais c'est vrai qu'après, comme tu le dis, il y a des trucs que tu apprends, mais c'est normal aussi, c'est l'expérience. Moi, c'est ce que j'appelle l'expérience. Alors, des fois, l'expérience, elle est un peu douloureuse parce que, bah, comme tu dis, tu peux te blesser. Des fois, c'est juste des courbatures. Des fois, c'est des blessures. Puis, des fois, c'est rien du tout. C'est juste, tu te dis, bah, la prochaine fois, je ferai autrement parce que ça se passera mieux. Je verrai autrement. Des fois, c'est l'ego qui peut se blesser, qui peut être un peu froissé. On pensait courir à telle vitesse et puis, en fait, on court moins vite. Ou on pensait finir bien et puis on finit en faisant la tête parce qu'on se sent pas bien. Mais c'est l'expérience. C'est un truc, t'as, en fait, il y a la fameuse zone de confort dont on parle tout le temps. Moi, je dirais plutôt que c'est la zone de connu. C'est juste que tu es dans ta zone de connu, en fait. À un moment donné, quand tu sors de ton canapé et de ta sédentarité, ta zone de connu, tu sais, tu t'apprends à en sortir. Et au fur et à mesure que tu vas faire des distances, bah, tu vas étendre ta zone de connu à des choses. Et à chaque fois que tu sors un peu de ta zone de connu, tu fais de l'expérience nouvelle.
Ouais, exact. Ça me rappelle comme habiter à l'étranger, quoi. T'apprends des nouveaux mots au fur et à mesure que la vie se passe. Et, ouais.
Je t'ai pas demandé de me sortir un mot norvégien encore. T'as remarqué, mais c'est, j'ai vu que sur Instagram, t'as mis un mot norvégien qui faisait 55 lettres, ou presque. Et j'ai dit, celui-là, on va lui faire le défi, lui demander de nous le sortir avant la fin. Donc, tu vois, il te reste pas longtemps. Il te reste 25 minutes à peu près pour préparer le.
D'accord, la prononciation. D'accord, je te ferai répéter aussi.
Ouais, non. Alors, alors là, t'as trouvé l'arme, ma kryptonite. Mais bon, revenons donc à la course. Si je tente norvégien, on en parlera plus tard. T'as quand même fait des courses, là, récemment.
Oui. Alors, pour la reprise, J'avais un nouvel objectif, c'était réussir à reproduire un 5 km, parce qu'après la périostite, etc. Ouais, ça me motivait bien. Et donc, j'ai refait une course, j'en ai même fait deux au final. Ouais, la première était le 30 avril, et la deuxième, je l'ai fait une semaine après, c'était le 7 mai. En fait, celle du 7 mai, c'était l'objectif principal au départ. Et c'était sur une île au sud de Bergen, un super site que je connaissais pas. Et ça avait l'air d'être une course superbe, et c'était le cas. Et il s'avérait qu'à Bergen, il y avait le marathon 10 km, 5 km une semaine avant. Et je me suis dit, oh, ben, on va s'inscrire pour histoire de voir, quoi, se remettre en forme, dans l'ambiance. Et puis j'ai fait ça avec ma fille, en fait. Et c'était pour lui faire découvrir l'expérience des. Ouais, des. Elle mettait un dossard, courir avec du monde. Donc ça a été très sympa. En fait, cette reprise-là, je peux dire que je l'ai fait en grande partie avec elle. Alors elle fait de la course d'orientation. Elle fait pas mal de trucs. Et moi, quand je faisais mes sorties pour mes propres entraînements, on va dire, c'est pas des grandes sorties, mais il est déjà arrivé que voilà, elle est à la maison quand elle dort ou quand elle fait autre chose. Là, je me disais, ce serait sympa quand même qu'on fasse ça ensemble, parce que je vois qu'elle, enfin, quand je revenais, des fois, elle se réveillait, elle voulait faire les exercices d'étirement yoga avec moi et tout. Donc, j'avais commencé à lui acheter un tapis de sol pour qu'on le fasse ensemble. Et puis après, je me suis dit, OK, je lui achète une paire de running et puis on va voir si ça la branche de vraiment devenir avec moi. Et puis, je lui ai acheté sa première paire. Et elle a bien aimé, elle était contente parce que ça aurait pu pas le faire non plus, hein, tu sais jamais avec les
Faut
enfants.
tenter, il faut essayer.
Et donc elle a 11 ans et je l'ai inscrite avec moi au 5 km qui était le 7 mai. Et on a fait quelques sorties ensemble pour voir, pour qu'elle intègre un peu la distance du 5 km, qu'elle voit un petit peu comment ça se passe, et on y allait en marche-course. Pour pas qu'elle soit dégoûtée non plus, parce que courir 5 km sans interruption, ça l'aurait saoulée de courir avec maman pendant. Ça marchait pas, il fallait alterner. Et c'était très bien, ça fonctionnait aussi. L'essentiel pour moi, c'était qu'elle ressente la distance, en fait. Donc on a fait quelques sorties comme ça. Et puis quand il y a eu 5 km à Bergen, qui était avant le fameux 7 mai sur l'île au sud de Bergen, on s'est inscrite. Et puis, alors je l'avais préparé le négatif split pour lui dire tu pars pas comme une balle, parce que pour pas te cramer et tout. Mais elle est quand même partie comme une balle, en fait. Elle a pas réussi à s'en empêcher. Donc je l'ai perdue très tôt. Elle était très très loin. Elle est arrivée avant moi. Elle avait fait combien? Elle a fait 32 minutes 24 et moi j'en ai fait 36 11. Donc c'était pas mal. Elle me disait à la fin, j'essayais de la retrouver, elle était arrivée depuis un moment. Ah, mais maman, je suis pas fatiguée. Et pour la deuxième course, elle a bien voulu en faire une deuxième, parce que je me disais après la première, peut-être que ça va pas trop là. Mais en fait, pareil, elle était enthousiaste et tout. Là, elle est restée un peu avec moi en début de course, mais j'ai vu que ça la saoulait. Donc à un moment, je lui dis, c'est bon, au bout de 4 minutes, je lui dis, c'est bon, allez, vas-y, on se retrouve à la fin. Et elle est partie aussi comme une flèche. Donc c'était assez intéressant d'observer son approche à elle, qui était ouais, elle est meilleure que moi, ça, il y a pas de souci. Mais d'avoir partagé ça ensemble, c'était en fait, on n'a pas vraiment partagé la course en elle-même, parce qu'elle est partie loin devant moi, mais on a surtout partagé la préparation, en fait. C'est ça qui était très très sympa.
Et oui, parce que tu montais sur ton Instagram, tu fais les vidéos, parce qu'on le dit hein, sur Instagram, tu fais des petites vidéos où tu expliques ce que tu fais, etc. Et on voit des fois où tu fais les séances avec ta fille, vous avez fait un peu de piste, etc. C'est important cette histoire d'ailleurs. Tu parlais de l'âge, de la progressivité, de la distance, etc. Parce qu'il y a eu une grosse polémique aux États-Unis où un gamin de 6 ans a couru un marathon avec ses parents. Et je le dis, mais en France, c'est totalement interdit de faire courir un marathon. Mais la Fédération française d'athlétisme, d'ailleurs, pour quelqu'un qui un enfant qui a 10 et 11 ans, le maximum de course, c'est 1,5 km dans les courses de la fédération. Donc, pour dire.
En France?
Ouais, ouais. Et, par exemple, les gamins qui sont cadets juniors, c'est-à-dire 16-17 ans, n'ont pas le droit de faire plus de 15 km en course. Par exemple, le semi-marathon n'est accessible qu'à partir de 18 ans ou 19 ans, normalement, dans les courses libellées, fédération française, etc. Alors après, ça veut pas dire que tu peux pas t'inscrire à une course, à des petits cross, à des, enfin, tant qu'ils sont pas label fédération française, mais je veux dire que, La progression est très encadrée, en tout cas pour la France. Ça avait beaucoup surpris parce qu'aux États-Unis, c'est le marathon de Philadelphie, je crois, où l'organisatrice m'a été prise, elle a dû faire des excuses en disant mais on l'a pas vu quoi. On s'est pas rendu compte qu'il y avait ça. Et c'est vrai que sur, on peut pas faire courir n'importe quelle distance. Tu l'as dit, il y a une question d'ennui, mais il y a une question physique aussi. C'est-à-dire que physiquement, il y a certaines distances qui, petit à petit, ça va y aller, etc. Bien sûr, on voit toujours des cas, parce qu'il y a toujours eu des cas, puis on a vu plein de gamins qui couraient des choses plus longues. Mais c'est vrai que 5 kilomètres, bon, elle, je pense qu'elle a dû trouver ça amusant, quoi. Si tu fais courir plus longtemps, au bout d'un moment, elle va peut-être trouver ça un peu ennuyeux, quoi. Pour l'instant.
Bah. Ça me surprend ce que tu me dis parce que sur les deux courses là il y avait pas mal d'enfants hein.
Ouais.
sur le 5 km elle était pas la seule déjà et ouais c'était une distance qui était suffisamment exigeante et suffisamment amusante enfin c'était vraiment un 10 km peut-être que ça se tiendrait aussi mais en tout cas ici ils recommandent voilà les enfants 5 km 10 km mais pas plus.
Ouais.
Pas plus. Mais ouais, ici, il y avait plusieurs gamins. Hein.
Ouais.
Moi, le premier 5 km l'année dernière, j'étais à côté d'un gosse de 11-12 ans. et ça se fait. Ça se fait très bien.
Alors après, peut-être que la fédération a des choses très protectrices, des distances qui sont très protectrices aussi pour éviter peut-être les abus, parce que le risque, c'est sur la croissance, sur la fatigue. Puis après sur les jeunes filles après au bout d'un moment quand t'arrives avec les problèmes de règles etc sur l'épuisement du corps qui peut provoquer d'autres soucis et tout mais c'est vrai que ça surprend beaucoup de gens parce qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte moi j'ai discuté avec un gamin au club qui à l'entraînement faisait des distances qu'il n'avait pas le droit de faire en course tout simplement parce que à l'entraînement il faisait un entraînement de 17 bornes et puis on dit tu fais la course ce week-end il dit j'ai pas le droit. J'y attends. Il me dit non, mais moi j'ai le droit de courir qu'un 10 km. Et c'est vrai que en fait ça venait tout simplement de la fédération française qui a mis des limites. Et alors tu vois maintenant peut-être 2 km 2022, tu vois, c'est 10-11 ans, c'est 2 km et 12-13 ans, c'est 3 km dans les courses qui sont labellisées par la fédération française d'athlétisme etc. Ce qui veut pas dire que tu trouves pas d'autres courses où les courses sont plus longues, les distances sont plus longues etc. où tu auras des enfants, tu vois. Mais en tout cas sur les courses officielles reconnu par la fédération, qui compte pour les temps officiels, etc. Le cadre est très très strict en fait. Et c'est alors ce qui veut pas dire qu'ils peuvent pas faire plus, mais ça veut dire qu'en fait c'est aussi une protection qui a été mise pour justement protéger les enfants et peut-être, je sais pas si c'est pour protéger le corps ou si c'est pas pour les protéger plus aussi des fois des parents qui sont un petit peu qui pousseraient un petit peu sur des choses, etc. Tu sais, c'est toujours ça, un petit peu le débat qu'il y avait autour du marathon de Philadelphie avec ce gamin de 6 ans. Parce que les parents, en fait, c'est des influenceurs sur running, sur les courses, sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois, c'est... Et puis, ils ont dit, non, mais on a peut-être fait une erreur et tout, tu vois. Il y a peut-être une histoire un peu comme ça, tu sais. Et on dit, bon, il faut aussi un peu protéger l'enfant. Alors, peut-être qu'on peut dire la fédération protège peut-être trop, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que la distance de 5, je trouve que c'est une bonne distance. Mais à la fois pour les adultes, comme pour qui débutent, ou même pas qui débutent, parce que sur 5, tu peux te faire mal, tu peux arriver totalement HS. Hein. Si tu vas à fond, tu pars à la fin, tu peux être totalement HS. Hein. C'est une bonne distance et c'est moins exigeant que le 10. Parce que le 10 commence à être une distance, je le dis, je veux pas te faire peur. Hein. Mais c'est là où il y a le plus de problèmes, en fait, de défaillance, parce que c'est... C'est l'histoire de partir pleine balle. Bah, si tu pars pleine balle sur un 5, tu tiendras le choc. Si tu pars pleine balle sur un 10, déjà, l'effort, il est beaucoup plus long, en fait. Et après, quand tu montes sur des distances plus longues, tu sais que tu dois pas partir pleine balle. C'est l'espèce de conséquence. C'est juste que le 10, moi, je l'ai vécu, partir pleine balle, c'est un peu compliqué à finir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne distance, je trouve. Et pour commencer, puis j'imagine que sur ces courses-là, tu avais tous les âges, tu disais tu avais des enfants, mais je pense que tu avais des personnes âgées, des...
Oui, bah sur les courses en général, ici, c'est effectivement, il y a tous les âges. Hein. C'est assez... ça me semble... Enfin, je découvre que la course à pied est aussi très populaire au final par chez nous. Ouais, pour tout type, pour toute tranche d'âge. Enfin, les Norvégiens en général sont assez sportifs. Ça, c'est
Ouais.
pas forcément une nouveauté, mais ouais, il y avait de tout hein, en course. Mais aussi beaucoup d'enfants, en
Ouais.
fait.
Puis les gamins,
Ça, c'est.
ils ont des belles idoles en Norvège parce que vous avez quand même les meilleurs coureurs sur piste actuellement, sur certaines distances, les 1000, les 3000, les compagnies avec
Eh
des
oui.
records, etc. C'est vrai que pour les gamins, quand même, il y a de sacrés modèles. Et la Norvège, faut le dire en plus, a beaucoup investi dans ses courses, dans ce type de discipline avec des équipes techniques, de la technologie, pour mesurer tout un tas de choses, etc. C'est vraiment, il y a autant la France pour gagner des médailles aux Jeux Olympiques, on n'a rien fait. Autant la Norvège, Paris 2024, je pense que tout a été fait pour qu'il y ait des médailles, on voit la différence. Et c'est vrai que pour des gamins, c'est aussi des modèles qui sont importants aussi. D'avoir j'ai envie de dire, des héros locaux qui courent sur ces distances-là, ça peut, enfin, qui courent, déjà qui courent, ça donne aussi envie aux enfants de faire ce type de sport-là. Et donc, c'est pas surprenant aussi qu'après, tu aies des enfants qui aient envie de faire du moment que tu aies des pistes, que tu aies des clubs, que tu aies des petites compétitions, des trucs comme ça, bah, ça crée de l'émulation d'avoir aussi des champions. En plus, ils sont jeunes, hein, et donc, beaux héros sportifs. Donc, c'est cool aussi, je veux dire.
Ouais, c'est vrai. Ça contribue aussi au rayonnement des disciplines chez les plus jeunes.
Ouais, ça
C'est
change du ski
clair.
en plus.
Bah ouais, exact. Parce que du ski, on en. Le ski, c'est bien, mais non, ils se démarquent dans d'autres disciplines. Ça, c'est chouette.
Et c'était des courses route ou nature que t'as fait? Parce que c'était ça paraît, c'est un peu de chemin, non? En tout cas, la première, je sais pas, mais la deuxième sur l'île, là, c'était un peu dans la forêt,
Ouais.
non?
Ben, celle que j'ai faite en 2020, ça ressemble un peu à celle qu'on a faite là sur l'île. Il y avait une grande partie en sentier et puis le reste sur asphalte. Là, donc la dernière qu'on a faite sur l'île aussi, c'était, ouais, on traversait une espèce d'île, enfin une partie de l'île à côté de lac et tout en pleine nature. Donc, enfin, vu qu'il y a beaucoup de nature en même temps, on n'est pas dans des secteurs très sururbanisé et surbétonné non plus. Donc, à part dans Bergen, le 5 km est resté tout le temps en sentier, mais enfin, je veux dire sur l'asphalte,
Ouais.
parce que c'est une des rares grandes villes. Mais sinon, à l'extérieur de Bergen, je crois que tu es toujours sur sentier à un moment ou à un autre, en fait, sur ce genre de course. Donc, ce qui est bien.
Ce qui me permet, tu vois, de faire la jonction avec le sujet, j'ai dit qu'il fallait qu'on aborde parce que les Norvégiens, quand même, vous avez un lien avec la nature qui est beaucoup plus fort que ce qu'on connaît nous, en tout cas en France et pour beaucoup de gens quand même, mais qui se voit aussi dans la course à pied en fait, par certaines préoccupations que tu as des fois sur. Moi, le truc qui m'avait fait halluciner, c'est quand tu m'avais envoyé un lien sur les chaussures et la dégradation la pollution des chaussures de course avec les gommes, etc., les matières utilisées pour les vêtements. C'est des trucs sur lesquels
Ouais.
vous faites vraiment, enfin, vous faites, en tout cas, les Norvégiens et tout, et puis toi, parce que 18 ans que tu es en Norvège. C'est ça que tu m'as dit.
Ouais.
Il y a vraiment une attention à des choses sur le. Finalement, est-ce que la course à pied pollue? C'est une question qui se pose vraiment, quoi.
Ben, je pense que oui, enfin, vu d'ici en Norvège, ça pollue le trail, la course, enfin, tout ce qui est outdoor, au final, ça pollue parce qu'on a une industrie qui produit des vêtements. Fabriqués à partir de pétrole, les fibres plastiques, synthétiques, etc. Même si c'est recyclé, t'enlèves pas le problème non plus d'ailleurs. Mais les fibres, elles s'échappent déjà quand tu les laves en machine à laver, mais aussi quand tu es à l'extérieur. La gomme des chaussures, etc. Tout ça donne un impact. Et on a des chercheurs norvégiens qui vont souvent en Arctique ou au Groenland étudier l'état du climat. Mais on a retrouvé aussi beaucoup de fibres plastiques. Et il y a différentes sources de ça, mais le textile, c'est un grand pollueur et ça se répand même par l'air, en fait, le microplastique. Et les Norvégiens, c'est les premiers consommateurs de vêtements outdoor au monde. Ils sont souvent en tenue de sport, même enfin, dans la rue, t'es habillé, relax, tranquille pour affronter les éléments, mais parce que tu fais beaucoup de sport. Et donc, il y a en parallèle une certaine conscience de ce qu'on porte. Et en plus de nos chercheurs norvégiens, etc., qui nous avertissent là-dessus. Et ce qui fait qu'on a de la production de produits, enfin de vêtements en laine. Et ça, je trouve ça super, en fait. On a plusieurs marques de vêtements de sport qui font des vêtements de trail, ça va de la veste au slip, les chaussettes. Là, ce que j'ai sur moi, là, tu vois, c'est de la laine toute fine, en fait. Mais je peux aller courir, je peux courir avec, c'est pas épais. Parce que la laine, c'est déjà, c'est thermorégulateur, ça te tient au chaud l'hiver, ça respire l'été. Et c'est pas les gros pulls. On met des couches très fines, en fait.
Ouais.
Qui gardent bien la chaleur. Quand t'es en mouvement, tu chauffes, hein, et ça te... Ça reste,
ça
régule, ça se régule tout seul et c'est génial en fait. Et c'est moins polluant dans la production, dans la voilà. En plus de ça, ça se lave un petit peu moins parce que ça s'auto-nettoie soi-même. C'est une matière naturelle qui est très particulière et c'est léger, c'est plus écolo quoi. Donc ça a clairement un avantage et moi je l'ai testé l'hiver parce que si je veux courir dehors en coton, sortir en coton c'est mort, hein, le coton ça, il y en a déjà des fois qui sortent avec des t-shirts en coton mais quand tu sues l'eau ça te refroidit très vite. Le synthétique ça passe aussi mais c'est pas génial non plus, ça sent mauvais très vite des fois, enfin c'est l'horreur. C'est pas génial comme matière, hein, et la laine, c'est avantageux sur plein de plans et ça fonctionne très bien aussi dans le running, en fait. Donc, à part l'été, je mets peut-être à partir du mois de juillet, quand il commence à faire vraiment chaud, là, je sors les petits t-shirts en synthétique.
Attends, le mois de juillet pour sortir un t-shirt.
Oui, ouais. Et sinon, là, jusqu'à fin juin, je serai encore en t-shirt en laine. Là, j'aurai pas le manteau sur moi, mais j'aurai le t-shirt en laine et j'aurai le pantalon en laine fine.
Non, mais ça fait sourire parce que, bon, tu le sais, la semaine dernière, on a eu jusqu'à 31 degrés, voire 32. Un jour, on a eu 34 à la maison, enfin, devant la maison, et on a dormi les fenêtres ouvertes. On avait chaud la nuit et tout, on avait une espèce de canicule. Et donc là, il y a un truc qui cloche, mais c'est sûr. Et je leur dis, on enregistre le 26 mai, donc c'était la semaine autour du 18-19 mai, là où il a fait tellement chaud. Ça fait des semaines qu'on court. Ce matin, j'étais encore en t-shirt, même si j'ai mis un petit truc de protection. Et je me dis, attends le mois de juillet. Il y a qu'au mois de juillet que tu peux arriver à commencer à tomber les manches. Et là, je me dis quand même, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le même climat. Mais bon, c'est un petit aparté. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur la laine. Et j'avais vu aussi parce que j'avais été étonné un jour de voir des gens qui couraient avec des chaussettes en laine pour la course. Et moi, dans mon image, les chaussettes en laine, c'est que les grosses chaussettes de ski, épaisses, etc. Alors qu'en fait, pas du tout.
Non, t'as tous les types d'épaisseur, en fait. Et l'hiver, j'en mets dans mes chaussures. Quand il pleut, quand dans la neige, il y a certains types d'épaisseur qui font que... Bon, à moins de rester statique dans la neige, là, ça va s'imbiber. Mais ça résiste bien aussi à la pluie et à la neige. Ça te garde au chaud. Enfin, c'est génial comme matière. Et ça fonctionne en fait très bien pour les activités sportives, comme le running aussi. On en met déjà quand on va au ski. Mais pour courir, c'est également... En fait, il faut l'essayer. J'ai vu qu'en France, il y avait des marques comme Hogaren. Je pense qu'on a le droit de le citer.
Oui, mais cite. De toute façon, j'en enverrai la facture après. Mais...
Ouais.
Ils ne le savent pas encore.
Ils ne le savent pas encore. Mais d'après ce que je sais, des expériences, des retours que j'ai eus, je connais des personnes qui utilisent aussi la marque norvégienne Devold, qu'on trouve en France également.
Oui.
Et c'est comme Hogaren, et c'est super aussi pour le running, c'est léger, c'est génial. Donc si vous avez envie d'essayer, ça va, vous aurez plus envie de repasser au synthétique après.
Donc tu dis, alors, parce que je noterai, donc il y a Devold par exemple pour ceux qui sont intéressés. T'as d'autres marques comme ça norvégiennes qu'on pourrait trouver en France qui ont cette logique là de produits, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire, mais ou en tout cas, ils font tout pour essayer de limiter les rejets de matières synthétiques, etc., de pollution.
Ouais, il y avait donc déjà Devold, c'est sûr qu'on trouve. Après, il y a également la marque Janus, mais il faut voir si elle est en France, ça je me souviens pas. Mais on peut se faire livrer ce genre de produit-là. Sinon, ouais, il y a la marque... J'ai déjà vu ça sur les défis en France aussi. Caritro. Alors, c'est Cari et Trau, c'est T-R-A-A.
Ah oui, vous prononcez comme ça.
Une skieuse norvégienne.
Ouais.
Et ça aussi, c'est pas mal du tout comme marque. C'est de la laine technique qui est franchement géniale. Les leggings, les t-shirts sont super. Ils sont très beaux aussi. Ouais, c'est plus porté sur le style féminin. Je pense qu'il y a une collection masculine, mais c'est plus féminin, cette marque-là.
Et en tout cas, je mettrai des liens. Puis si tu penses à d'autres, tu m'enverras des petits trucs comme ça. On fera des recherches. Mais c'est vrai que c'est un peu très intéressant parce que ça change un petit peu aussi. Comme tu l'as dit, il y a du synthétique. Moi, je sais pas combien j'ai de t-shirts synthétiques qui en fait, l'odeur en plus s'imprègne à l'intérieur. Et même en courant tous les jours, c'est encore pire parce que j'ai une rotation qui est plus faible. Mais c'est vrai qu'on trouve, et si on fait une recherche, tu vois, je suis en ce moment sur, je fais une petite recherche, on en trouve, y compris d'ailleurs, tu vois, je suis assez étonné, chez des grandes marques, genre Under Armour, qui est une grosse marque américaine, ben, ils ont des chaussettes en laine pour courir. Tu vois, je n'aurais pas cherché chez eux. Et donc, il y a des, officiellement, même une marque comme Nike en aurait. Donc, t'as qu'à voir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette logique-là parce que l'image, de la laine, par exemple, c'est un peu
c'est
le gros pull et tout. Et là, on revient en plus à ce que je disais sur la série norvégienne de départ. C'est, moi, tu vois, pour moi, c'est le pull de Noël, le gros pull, etc. et tout. Et c'est vrai que bah, ça reste quand même des matières qui peuvent être traitées de plein de manières différentes et ouais, utilisées de plein de manières différentes et auxquelles on ne pense pas. Parce que je pense qu'aussi l'industrie a une facilité à traiter certains produits sur les tarifs, sur le traitement, sur les coûts, sur d'autres choses, et que bah, peut-être que c'est une bonne idée aussi de revenir à ça, et ça me permet de revenir aussi sur ce qu'on disait avec Beaumolet, c'est-à-dire de peut-être de choisir ses vêtements aussi d'une manière un peu plus responsable, en tout cas sur ce plan-là. Par contre, là où ça doit être plus compliqué, c'est sur les chaussures, parce que enfin, je sais pas si vous avez une marque norvégienne de chaussures qui s'use pas la semelle et que tu rejettes pas d'éléments de semelle dans la nature.
Non, ça, malheureusement, on n'y est pas arrivé encore. Hein. Donc, là-dessus, on peut pas faire la leçon, par contre. Mm. Les chaussures, c'est plus compliqué, apparemment. Mm. Mm.
Mais je suis sûr qu'il y a des études qui sont faites. Je suis sûr que vous avez des chercheurs qui font des études là-dessus pour savoir comment les chaussures s'usent ou pas.
Ça, ce qu'on sait, c'est que la gomme et tout ça, ça se répand dans la nature, et même les, ouais, puis toute cette histoire, les bâtons de trail et tout, qui font des dommages de plusieurs manières. Donc, on est conscient, mais ouais, pour les chaussures, je ne sais pas trop encore.
Et ça, c'est un truc, j'imagine, par contre, que vous ne trouvez pas. Tu ne trouves pas, toi, des gens qui jettent des petits trucs de gel dans les trailers, ils font attention?
Les Norvégiens, ils sont quand même moins. Ben, en même temps, ils sont moins nombreux. Donc, s'ils étaient 60 millions, peut-être que ce serait un peu plus compliqué. Mm. C'est un pays de 5 millions d'habitants. Mm. Donc, l'impact sur des espaces énormes est moins visible, même s'il existe aussi. Mais ils sont quand même plus respectueux, ça c'est clair. Parce que la nature, c'est le terrain de jeu des Norvégiens. Ils ont un lien très fort avec. La nature, même si c'est parfois très utilitariste, parce qu'on utilise la nature pour se faire du bien à soi, pour faire du sport, par exemple, ils sont pas du genre contemplatif. Ah. Tu sors dehors avec les Norvégiens, ils disent, on va sur la montagne là-bas. Ils y vont pour cavaler, ils y vont pas pour se promener, on s'arrête 2 minutes, on regarde la vue, etc. Non, ils y vont, c'est pour pour faire leur sortie d'entraînement, quoi. C'est tout le temps comme ça. Donc, c'est pas des shintoïstes non plus, les Norvégiens. Mais il y a quand même ce respect où, voilà. Il y a aussi un truc qu'on retrouve en Scandinavie qui s'appelle le droit d'accès à la nature.
Ouais.
Et en Norvège, c'est implanté dans la loi de la vie en plein air. Et ce qui dit qu'on a le droit de se promener n'importe où. Peu importe, chacun a le droit de se promener où il veut, de profiter des espaces naturels. Peu importe s'il y a un propriétaire ou pas.
D'accord.
Tu peux planter ta toile de tente n'importe où, bon, pas à 2 mètres de la ferme du paysan, etc. Mm. Mais il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'espace fermé à très rares exceptions près, qui fait qu'on a aussi un accès illimité où on veut, en fait. Et ça, on en profite aussi. Les Norvégiens l'utilisent. Enfin, c'est un droit qui est très important. Enfin, pas pour les Norvégiens, mais tous les Scandinaves, en fait.
D'accord.
Ça, c'est super.
Et tiens, on va finir un petit mot sur la Norvège. Kian Jornet, il est installé en Norvège, mais c'est pas du tout ton coin à toi. Hein.
Lui, il est plus au nord. Il est lui aussi, il est sur la côte, mais il est dans une zone où le paysage commence à être beaucoup plus alpin.
Ouais.
C'est des pics près du bord de mer. Bergen, il s'ennuierait hein, parce que les sommets plus élevés sont 640 mètres, 900 mètres, alors que lui, il est près de vrais pics. Il est aussi près du fjord et tout, c'est magnifique chez lui. Mais, ouais, Bergen, il s'ennuierait un petit peu quand même, c'est sûr.
Mais c'est vrai que il y a des images quand on voit où il est. Et c'est vrai que là aussi, on voit aussi la diversité parce que c'est vrai ce que tu dis, c'est que là où il est, ça ressemble vraiment pas du tout aux images que toi tu partages sur le. On a vraiment l'impression d'avoir des pics, des montagnes qui sont vraiment extrêmement pointues, enneigées. Bon, la neige, bon, ça c'est autre chose, mais vraiment spectaculaire, mais avec un aspect qui est différent et vraiment. Il y a des gros falaises, des gros pics, etc. Et puis derrière, tu vois des fjords, des choses comme ça, là, sur certaines images. Il y a des images qui sont magnifiques là-dessus. Mais bon, il y a des endroits où c'est le seul aussi à pouvoir monter, hein, parce que c'est tellement des espèces de pics ou des sans-ski, on se demande comment il fait pour descendre. Bref, en tout cas, ça montre aussi la diversité, hein, de la Norvège. Vous avez beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de compétitions en Norvège, de trails, de choses comme ça, parce que un jour, tu nous avais envoyé un lien, il y a des trails avec
Ouais,
des bonnes distances, des trucs comme ça, là.
c'était pour 2021, j'avais retrouvé une liste. Ouais, il y a des courses, voilà, les sept sommets, les sept pics. Il y a des ultra trails. On a aussi des swim runs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des marathons en pleine montagne, en plateau d'altitude. Ouais, pas mal d'ultra trails, toujours beaucoup en montagne en fait. En fait, la Norvège, c'est une grosse roche
Ouais.
avec des pics à certains endroits. Par chez moi, c'est des sommets un peu plus anciens, un peu plus arrondis. C'est un peu les Vosges de Norvège, si on peut dire. Donc forcément, les courses, c'est en montagne, quoi.
Ouais.
Ça, il y a quoi faire à ce niveau-là.
Non, mais en fait, pour ceux qui voudraient faire qui courent et qui voudraient chercher d'autres destinations pour voyager un petit peu, pour découvrir du pays, c'est vrai qu'ils peuvent regarder ce qu'il y a en Norvège. Tu nous avais fait une liste une fois, c'était intéressant parce qu'il y a beaucoup de courses. Alors, comme tu le dis, il y a de la montagne, il y en avait beaucoup, avec beaucoup de dénivelé, quand même, hein. Énormément de dénivelé, des trajets, etc., des grosses zones. Tu parles aussi des swimruns. Faut pas oublier que le swimrun a pas été inventé en Norvège, mais pas très loin non plus quand même. Hein, on reste dans la Scandinavie, on reste dans ces zones-là. Enfin, je te dis pas en Norvège. Non, c'est pas en Norvège. C'est où que c'est inventé?
C'était en Suède,
En
peut-être?
Suède, je crois. Voilà. Mais en tout cas, ça reste dans plutôt dans ces zones-là. Et c'est vrai que ça change un peu parce que quand on regarde un peu les images, etc. Les paysages, alors peut-être qu'il y a une saison, et c'est là après une question de saison à viser, mais tu nous as bien expliqué quand même que si on voulait avoir un peu chaud.
En fait, il faut venir de mai à. Les courses, elles sont de mai à septembre,
Ouais.
principalement. Donc, c'est l'été que ça. Qui a le plus.
Et en plus, on peut
Parce que
prof.
c'est là qu'il y a le moins de neige,
Ouais.
que tu peux plus pratiquer la neige à fondu. C'est pour ça.
Et puis il fait jamais nuit, ou presque, l'été, enfin.
Ouais, c'est exceptionnel à cette période-là.
Et par contre, il faudra quand même juste le dire pour ceux qui seraient tentés d'y aller. Je pense qu'il faut quand même un bon budget.
Ah, souvent, on dit que la Norvège, c'est cher. Alors oui, c'est cher, mais comparé à la Suisse, la Suisse est plus chère que la Norvège. Je suis allée en Suisse et je peux vous le confirmer. Mais ça reste quand même assez. Ouais, il faut économiser un petit peu avant quand même. Mais les billets d'avion restent abordables. Il y a des vols directs de Paris avec Air France. Pour Bergen ou Oslo, c'est à peine 2 heures de vol. Les prix sont normaux, on va dire. Après, ce qui peut coûter un petit peu, c'est le logement. Donc, il vaut mieux dormir en petit chalet, petite hutte. Ou en camping, louer une voiture si on a le permis, sinon il y a de bons réseaux de transport en commun, mais il vaut mieux éviter les hôtels, ça c'est assez cher. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je pourrais vous faire un petit programme, il n'y a aucun souci là-dessus, vous renseignez sur le budget, c'est avec plaisir.
Voilà. Et puis on fera un congrès des hamsters du Hamsters Only Club dans quelques années là-bas, quand tu nous auras amené sur. Tu nous prépareras un
On fera un
trail.
bus qui partira de chez toi. Et puis, on fera Annecy, on ira récupérer tout le monde.
Bon, ben il faudra qu'on ait des sacrées vacances. Alors, pour finir, quand même, donc tu nous as dit que ton prochain objectif sportif de course, c'est quoi? C'est préparer un 10 km maintenant?
Ouais, c'est ça, prépare un 10 km pour cet été,
Mmh.
voire l'automne, si dans le malheur, s'il arrive quelque chose, mais ouais, un 10 km, ce serait bien d'arriver à faire cette distance déjà. Et si j'arrive à faire ça, je pense que je pourrais arriver à tout faire après. Donc,
C'est quoi? C'est psychologique, là, tu te dis, c'est un cap qui est dur à passer? C'est plutôt dans la tête, en fait, parce que physiquement, tu te dis si tu peux le faire.
Ouais, mais quand je vois déjà la course, le 5 km, je suis au bout de ma vie à l'arrivée à chaque fois. J'arrive pas comme une fleur non plus. Donc je me dis un 10 km, faire ça 2 fois de suite, même si évidemment c'est pas le même type de plan de course quand tu fais un 10 km, ça je commence à comprendre. Mais il faut que j'arrive à voilà analyser dans mon cerveau comment se pratique, comment se découpe le plan de course. Ça,
Ouais.
ça me C'est ça qui me préoccupe le plus, en fait. Comment je me prépare à ça? J'ai pas encore tout décodé à ce niveau-là. Donc, ouais, j'angoisse peut-être pour rien.
Non, mais ça montre
Mais,
aussi un peu, c'est intéressant, c'est que ça montre aussi que tu as besoin d'être rassuré, parce que finalement, c'est parce que tu avais posé une question sur le plan de course la dernière fois dans l'Amsterdam Running Club, et c'est vrai que il y a des gens qui vont la fleur au fusil, j'ai envie de dire, qui se préoccupent pas de grand-chose, qui j'ai même vu, tu sais, j'en ai même vu qui s'inscrivent 10 minutes avant, qui loupent le départ, qui ou presque, qui savent pas combien de kilomètres exactement, et puis qui font, ils foncent, et puis ils rentrent chez eux, ils sont contents. Mais ça, c'est certaines personnes, et puis qui ont aussi une capacité, qui savent que faire 10, ils l'ont déjà fait, donc ils vont le faire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître aussi en toi, c'est de se dire, bah oui, mais moi, ce qui me fait peur, finalement, c'est plus de savoir comment ça va se passer, d'un peu l'anticiper, de me préparer. Et ça fait partie aussi de la préparation. C'est-à-dire que essayer de se poser les questions en se disant bah, comment je peux le faire, comment ça va se passer, etc. On le retrouve beaucoup. Alors souvent sur les grandes distances, parce que je pense que plus la distance va augmenter, plus ces questions risquent d'augmenter dans ta tête sur comment je m'alimente, est-ce que je dois prendre ça, etc. Mais en tout cas, ce qui est, je comprends en fait la logique aussi de se dire, par exemple, je vais donner une anecdote, ma femme, le premier, quand elle a voulu faire un 10 km, et ben la semaine d'avant, on avait fait le 10 km ensemble, tous les deux, pour repérer que ça l'a rassurée de savoir qu'elle était capable de le faire, dans le temps qu'elle voulait faire, etc. Et ensuite, la semaine d'après, et ben elle avait fait en course. Parce que il lui fallait ça pour se rassurer, parce que elle n'était pas certaine, parce que ça lui faisait un peu peur, etc. Et ça fait partie aussi des une dimension de la course, c'est-à-dire que bah, on en a beaucoup avec le corps, c'est quand même la tête qui à un moment donné peut freiner, peut être un frein en fait.
Ouais, donc ce serait dans la tête, d'accord, je le note, mais
Non, parce que moi je suis sûr que physiquement, soyons honnêtes, après un 10 km en plus en alternant marche-course, etc., quand t'as fait un 5, et c'est pas Eliès qu'on a eu dans un épisode qui va te dire le contraire, quand t'as fait 5, tu peux faire 10. Certains de mes mentors de course ils disent, ouais, mais si tu veux vraiment te préparer, tu t'inscris pour un 10, ça te fait plus peur qu'un 5, donc tu vas vraiment te préparer. Tu sais qu'on a cette logique-là. Donc, c'est pas physiquement, en fait, la difficulté. Je pense qu'après, la crainte, elle est aussi en disant, mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais pas être trop fatigué? Est-ce que je vais y arriver? Comme tu disais aussi, cette histoire, est-ce que je vais pas arriver dernière, etc. C'est un peu notre ego, tout ça, je parle beaucoup d'ego en ce moment, mais parce que je travaille aussi un peu sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire aussi, et ça va rassurer plein de gens, qu'il y en a plein qui n'osent pas s'inscrire à des courses. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire, toi, un an après tes débuts, tu dis, bah, je m'inscris à une course en espérant pas finir dernière. Et puis finalement, ça se passe bien. Bon, la
Ouais.
gestion derrière, elle est un peu compliquée parce que bon, il y a l'hiver, les blessures, etc. Là, tu refais 2-5 km. Et maintenant, après, tu peux envisager de passer sur du 10, etc. Et tout s'est bien passé.
Oui, c'est vrai.
Hein? Donc, pour tous ceux, toutes celles qui n'osent pas s'inscrire, etc., faut le dire, c'est que ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal quand on se prépare bien.
Bah ouais, c'est ça. Ouais. C'était ça pour le 5 km aussi. Donc la préparation, c'était la clé pour se rassurer, ça c'est clair.
Et donc le 10, bah tu vas faire pareil.
voilà, ouais. Je vais faire pareil. Exactement, c'est parti.
C'est
C'est
parti.
parti.
Et ben écoute, en tout cas, je te souhaite une bonne préparation. J'espère quand même que ta périostite va te laisser un petit peu tranquille.
Merci, j'espère aussi, ouais.
Et puis, alors, on va donner les liens pour te suivre parce que tu fais des petites vidéos. J'en ai parlé. Tu montres un petit peu les trucs. Il y a ta fille des fois qui intervient dans les petites vidéos. On voit courir sur la piste, etc. On te suit où?
Là, c'est sur Instagram, donc j'essaye de mélanger un petit peu sortie et puis tourisme, montrer les au paysage du secteur. Et donc, mon adresse, c'est @nature-run, tout simplement, donc sur Insta. Voilà.
Et bien sûr, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, je mets tout le lien pour qu'on puisse te suivre, voir un petit peu les paysages, parce que je le répète hein, quand même, c'est un coin magnifique. Et puis tu fais, t'expliques. En plus, tu fais des petites vidéos dans lesquelles t'expliques, etc., avec les petites stories. On voyait les paysages de ta dernière course. Là, il y avait du monde quand même, non, sur la course là, sur l'île là.
Je sais plus combien on était, mais ouais, il y avait du monde. Il y avait pas mal de monde.
Et puis donc je mets tous les liens. Écoute Diane, c'était un plaisir de t'avoir pour. Et je le dis parce que c'est vrai que on a tellement parlé de courses ou avec les gens qui font des centaines de kilomètres et tout. Et puis j'en ai encore qui en font encore plus, etc. Que c'était aussi bien de voir aussi l'autre côté et de voir comment sont tes débuts. Et puis tu sais, moi je te le dis, je te lance l'invitation parce que je te l'ai dit off avant. Pourquoi ? On se dit pour le semi, pour le marathon, tu reviens nous expliquer ça ?
Allez, on dit le semi.
Pour le semi.
C'est-à-dire que j'aurais réussi à faire le 10 km. Donc.
Eh bien écoute, tu sais quoi ? On se donne rendez-vous déjà pour le semi, hein, quand on aura fait le temps semi. Et puis après, il restera à basculer ensuite, on fêtera ton anniversaire sur le marathon. Alors on sera en saison. L'an prochain ou dans 2 ans.
L'année prochaine.
Hein,
ouais.
C'est ça l'objectif. Hein, et ça fait déjà un objectif, on va dire, un peu moyen terme, finalement, hein, tout, tu vois. Et tu viendras nous raconter tes aventures. Comment tu as géré aussi, parce que ce sera intéressant aussi de voir comment tu vas gérer le prochain hiver. J'imagine que tu as dû un petit peu faire des plans. Ou en tout cas, te dire, attention, faut pas que je tombe dans ce piège-là. Maintenant, tu le sais.
Ouais, ça c'est le prochain objectif à dépasser aussi. Bien réussir son hiver. Ouais.
C'est important de le dire, c'est l'expérience. Parce que moi j'adore courir l'été, moi je cours toute l'année donc c'est pas un problème. Mais l'hiver, il y a plein de gens qui aiment pas courir l'hiver et je les comprends, hein, franchement. Quand tu cours sous la pluie, la neige, le froid, encore que le froid c'est pas trop gênant, mais la pluie c'est gênant et. Quand on est au bord de la mer, un peu comme ça, l'humidité, c'est toujours un peu désagréable. Et donc, c'est une période qui est importante à gérer. J'avais fait il y a 2 ans mon épisode sur ma coupure annuelle, en plein mois d'octobre, novembre, là, parce que c'est vraiment le moment où moi, je suis HS, en plus. Puis quand il fait nuit tout le temps, t'as encore moins d'énergie. On aurait pu en parler, je sais pas comment vous gérez ça, si tu te mets sous des lumières, de la lumière artificielle pour essayer de doper un peu tes niveaux de vitamines et compagnie, ou...
Il y a des solariums, on a accès à des solariums, donc de temps en temps, ça fait pas de mal.
Ouais.
Sinon, il y a le matin, on a la lampe, le réveil Philips qui fait la lumière du soleil progressive. Donc, il y a des petites techniques comme ça. Il y a l'éclairage aussi en bureau. Et puis, boire de l'huile de foie de morue ou prendre des gélules de ça. Du prenant de nos enfants aux adultes pour avoir l'apport en vitamine D, en fait. Parce que on fait très vite des carences avec le manque de lumière, ça te pousse à être un peu plus déprimé, à manger n'importe quoi. Donc, il faut réguler tout ça. C'est au niveau de la nutrition et les sensations de chaleur et de lumière. Le sauna, on fait du sauna aussi. On va à la piscine, on fait du sauna derrière. Ça aide un petit peu.
Voilà. Et déjà qu'en France, on est tous carencés en vitamine D, j'imagine pas sur la Norvège l'hiver. Donc, c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont importantes. Et un jour, je ferai un épisode spécifique sur la vitamine D, quand même, parce que on se rend pas compte à quel point elle impacte sur tout, mais ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la lumière. Et c'est pour ça aussi que là, on est dans une période... Allez, on en profite à fond. Mais on peut pas faire de réserve. On fait pas de réserve pour l'hiver.
C'est le problème.
Ça marche pas. C'est dommage. Mais en tout cas, écoute, Diane, je te souhaite une belle sortie. Parce que là, si j'ai bien noté, c'est l'heure d'aller faire ta petite balade.
Il y a un peu de soleil là, donc il va falloir que j'en profite avant qu'il se remette à pleuvoir.
écoute, en tout cas, merci beaucoup pour le temps passé avec nous. Puis de voir ton parcours et puis parler un peu de la Norvège. On n'est pas beaucoup, on connaît pas trop un petit peu, hein, ça nous paraît un petit peu loin. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent pas exactement la placer sur une carte en plus. Donc déjà on va faire réviser la géographie, on a revu un petit peu comment c'était placé, etc. Je te souhaite une belle sortie, des belles balades dans ton beau coin. Et puis écoutez, on s'est donné rendez-vous, nous deux, pour après le semi, hein, déjà. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas qui l'invité, parce que j'en sais rien du tout. Hein, c'est mon truc à moi, vous le savez, c'est la surprise. Mais en tout cas, on continuera à parler de mouvement, de bouger, etc. Et peut-être des petites distances, peut-être des grandes distances, peut-être d'autres disciplines, je ne sais pas. Mais en tout cas, on continuera à bouger et à tout faire pour devenir champion, championne du monde, de notre monde. Bah, finalement, comme tu l'as été le jour de ton premier 5 km. Hein, pour certains, ça paraît pas beaucoup, mais pour toi, et ben, c'était, comme tu l'as dit, c'était ton premier titre de championne du monde de ton monde. Et bah, écoute, bravo.
Bah, merci à toi. Et puis, grosse dédicace à tous les hamsters qui nous écoutent aussi.
Et ben voilà, le message est passé. Et ben écoute, belle sortie. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Ciao, ciao.
Ciao.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcast et tous les lecteurs de podcast. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.